Bonjour, bienvenue à l'édition spéciale dans deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. Aujourd'hui, bonjour, avant de dire qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, bonjour Marc.
Bonjour, bonjour, joyeux Halloween.
Oui, comment estás?
Bien et bien.
Parfait, nueve.
Tabarouette. On est arrivé de le faire en espagnol, ce podcast-là?
J'en apprends tous les jours.
Oui, on pourra inviter les commentateurs espagnols là, qui se font tout le temps détruire leur table.
Carlos puis Hugo.
Oui, c'est ça.
Hugo Savinovitch.
Je pensais pas qu'on allait parler de ça, mais OK.
Non, mais regarde, il faut un peu de tout, hein?
Il faut improviser des fois.
Exactement.
Ouais.
Aujourd'hui, on parle de... on parle d'un... On ne donne pas notre suite, là, mais un très, très bon show de WCW, 1994, Halloween Havoc, pour être plus précis.
Oui, notre deuxième spécial de Halloween Havoc, on a fait. Le premier, c'était...
Halloween Havoc 2000. Avec Scott Steiner.
Ouais. Ben, c'est drôle.
Ben ouais, regarde, c'est divertissant. On veut dire ce qu'on voudrait de WCW, que c'était pas la meilleure fédération du début à la fin, mais c'est divertissant. C'est un car crash divertissant, on peut dire.
On dira pas nos notes tout de suite, mais c'était meilleur que le premier.
Oh oui, ça sans aucun doute.
Ouais.
Il y avait plus qu'un bon match.
On avait donné combien à Halloween avec 2000, tu te souviens-tu? 8 de même? 6?
J'ai dans mes notes.
Vas-y donc voir. Il me semble que tu as donné 5, toi.
Je suis pas trouvé. Alors, peut-être, ça se peut très bien.
Habituellement, tu es plus généreux que moi pour les notes, par exemple.
Ouais.
Fait que si tu as donné une note, moi, je dois être genre 0.5 en bas ou 1 en bas. Là.
Ouais. Non, il est dans mon autre livre.
En tout cas, ça va être aux alentours de 6.
Ouais, je pense que c'est vraiment 5 que j'avais donné, je pense.
Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'était, je pense, 6. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pas bien vu.
Non, pas bien vu, mais c'est pas grave. Ouais, ils sont ça. Bien repris. Ils sont bien repris que 6 ans avant.
Ouais, c'est ça.
D'autres avant
quand même. T'as-tu vu, j'ai fait un décor spécial juste pour toi. Fait Scream.
Scream.
Fait que, tu sais, ceux qui ont écouté NXT mercredi passé. Il y a une référence. Next ben Halloween Havoc.
Oui, pas juste ça. Une autre référence aussi.
Laquelle?
Qui jouait dans Scream?
David Arquette.
Ancien champion de WCW.
C'est vrai. Tabarouette.
Ça fait un rip Getty.
Puis j'ai mis Joaquin Phoenix juste pas loin aussi pour toi.
Parfait. Et où avec ça?
Elle va ressortir bientôt. Elle est occupée avec The Fiend.
C'est vrai. Dans le Funhouse, c'est vrai.
Oui, exact.
En fond, ça, Halloween Havoc 94 qui a eu lieu le 23 octobre 1994 en direct du Lou Joe Louis Arena.
Je peux-tu t'arrêter 2 secondes, je te coupe.
Si tu veux.
Oui, parce que là, on enregistre le podcast en vidéo.
Oui.
Mais on va être aussi en audio sur Spotify.
Oh, fait c'est audio,
mettre,
ça?
Oui, ça va juste être audio. Ceux qui veulent écouter juste en audio parce qu'ils ne sont pas capables de regarder notre face, ben, fait que désolé pour les... Oui, c'est ça. Désolé pour les références vidéo, mais pour le monde de l'audio, puis pour le contraire, ben, ça ne change rien.
On va essayer d'avoir un médium entre les deux. Là. On promet rien, mais on va faire notre gros possible.
Oui, exactement.
Fait que, comme dit, ça venait du Joe Louis Arena, en direct de Détroit, au Michigan, la ville de l'automobile.
Oui, la ville de Kid Rock, c'est.
Oui, et la ville d'Eric Bischoff. Oui,
de Eminem.
De ben du monde, dans le fond.
Oui, c'est ça.
C'était leur 6e Halloween Havoc. Ils ont commencé ça en 1989. Avant le gala, il y avait un show de télévision qui s'appelait Main Event. C'est comme, dans le fond, leur kick-off show, si on veut.
OK.
Et le match de cette soirée-là, devine c'était quoi?
Je peux savoir un indice, au moins?
Oui. Un ancien champion par équipe et 5 fois WCW champion.
Booker T?
Oui. A affronté un chien de rue.
Bulldog?
Non, un chien de rue.
Un chien de rue, je ne sais pas.
Un chien de route, pardon.
De route, ah, c'est ça, là, c'est pas pareil, là.
Ouais,
je ne sais pas plus.
Road Dog!
Oh, je pourrais?
Oui, Booker T a affronté, dans le fond, Brian Armstrong, pardon, je vais le dire.
Ouais, mais il était supposé avoir un match hors de Meade contre les Armstrong, non?
Exactement. Non, c'était contre les Armstrong, mais il y avait une blessure à un de ses. Je pense que c'est Scott Armstrong, celui qui est rendu arbitre.
Ben, il n'est pas décédé il n'y a pas longtemps. Non, c'est vrai, c'est le père qui est décédé, hein? C'est ça?
Oh, ouais, Bullet Bob, il était décédé.
Ouais, c'est Bullet Bob, ouais, c'est ça.
Puis, ouais, ça, je pense qu'il y avait une urgence familiale à la maison, fait qu'il a fallu qu'il quitte les lieux. C'est fait qu'au lieu de faire ça, un 2 contre 1, ils ont fait ça un match en 5.
OK.
Une chance qu'ils n'ont pas choisi CV Ray parce que.
Ah, c'était sûr. Et je pense qu'ils sont assez. Ils ont fait bien des erreurs, mais ils sont assez brillants pour savoir que Booker était meilleur.
Ouais. Ou bien ils ont fait pile ou face, ça a donné de même.
Ça se peut aussi.
Pas mal plus ça connaissant WCW. Là.
Ouais.
On a une petite intro vidéo avec des images, évidemment, de Ric Flair et Hulk Hogan, le main event de la soirée, dans une cage. Ouh, une cage.
Puis tu nous avais dit dans un preview que c'était leur premier match single.
Ah ouais.
Puis tu t'es trompé en encyclopédie.
Ouais, ouais. Hein? Mais WCW, je vais être bien franc avec toi, là, c'est pas mon meilleur domaine. Là. Surtout les années avant la NWO. Là.
Ouais, c'est normal.
Ouais, mais bon.
Mais trompe-toi pas trop souvent parce que je pourrais te battre à la fin du show dans le quiz. Hein.
C'est vrai, on sait jamais.
Ouais.
Comme dirait un sage, on sait tout le temps.
Ouais, c'est ça, exact.
Puis au micro, on a les commentateurs, on a M. Tony Schiavone.
Yes.
Notre excellent annonceur à Dynamite maintenant.
Ouais.
T'es accompagné de l'excellent aussi Bobby the Brain Heenan avec son petit carcan. Il était blessé au cou.
Pourquoi, tu sais-tu?
Non, je m'en souviens plus.
Ben, peut-être qu'il a pogné une fraîche.
Je pense que c'est pas un work. Je pense que c'est vraiment un shoot. Puis il s'était blessé au cou. Il y a des problèmes de cou. Je pense qu'il luttait au Japon des années 70. Puis il luttait contre un lutteur. Puis un moment donné, je pense qu'il est tombé sur le cou. Puis il a failli se casser le cou.
OK.
C'est pour ça qu'il avait commencé à arrêter un peu, être manager, être sur la route, parce que ça faisait plus mal au cou.
OK.
C'est ça qu'il était plus commentateur comme la WCW, mais avant ça, WBF, évidemment.
T'as-tu déjà vu un match, toi, de Bobby the Brain?
Oui, j'ai déjà vu des matchs avec lui contre le Warrior.
OK, j'ai jamais vu de match.
Il était contre l'Ultimate Warrior, puis c'était un match qui était dans un Weasel Suit.
Weasel Suit, ce qui veut dire?
Un genre de furet, là.
Ah.
Un costume de furet.
Si, boy.
C'est okay. Comme, puis fait que le gagnant mettait l'autre dans le costume. Puis c'est Bobby Nunn qui perdait, puis il courait après sa queue.
Ouais, j'imagine.
Parce que tu fais pas belle Warrior contre Bobby Nunn.
Non, puis tu peux pas voir Warrior courir après sa queue, c'est bizarre un peu.
Ouais. Ça m'a sorti ça.
Ouais, c'est ça.
Puis ça, il nous souhaite la bienvenue. Puis Bobby nous dit que tout ce qui est arrivé, les événements marquants de la ville de Détroit avant les années, c'est rien comparé à ce qui va arriver ce soir quand Ric Flair va se débarrasser de Hulk Hogan pour de bon.
Mm-hmm.
Après ça, Mijin a fait son sell job de sa hotline, sa fameuse WCW hotline.
Mm-hmm.
Puis après ça, ils ont nous envoyé ça avec le premier de la soirée, mais avant ça, il y avait un dénommé T. Graham Brown qui a chanté l'hymne national américain.
Ah, ben oui, hey, ça, c'est le fun que tu nous en parles.
Ouais,
qu'est-ce qu'il a fait dans... Ouais.
Oui, c'est un chanteur country qui est encore actuellement, il fait encore des chansons.
OK.
Puis il a fait une vingtaine d'albums dans sa carrière, puis il continue encore aujourd'hui.
Il n'a pas été jeune?
Non, je pense pas. Là. Il devait avoir au moins en mi-trentaine au moins quand il a fait cette soirée-là. Fait que...
Mm-hmm.
J'ai pas marqué l'âge, malheureusement. J'aurais dû. Désolé.
Ouais, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je t'améliore un petit peu.
Oui, c'est
que...
sûr. Oui.
Parce que moi, la disco. Tu sais, d'un coup, moi, j'ai le goût d'acheter la discographie de. Je ne me souviens même pas de son nom déjà, tu sais.
T. Graham Brown.
Ah, parfait. Les biscuits Graham.
Ouais, je t'enverrai un lien.
Parfait, merci.
Mettrai ça sur la page Facebook.
Ouais.
Correct. Après pas ça, là... oui.
Pas obligé.
Bah, moi, ouais, si j'en trouve un, on sait jamais.
Attends, toi.
C'est peut-être bon. Match numéro 1 de la soirée. On commence en force avec un match pour le championnat de télévision. The Honky Tonk Man qui a affronté Johnny B. Badd, aussi connu sur le nom
Mark plus Merrow. Tard.
Oui, de Mark Merrow, le Marvelous One.
Parce que je voulais juste te dire que je connaissais ça, moi aussi.
Ouais, juste prouver que tu connais un peu de lutte, ouais.
Ouais, ben tiens, moi c'est ça.
Garde ça pour la fin.
Ouais.
C'est bien ça, c'est une des questions de Dave, c'est pas ça.
Si, ça serait le fun, il y aurait peut-être une.
Peut-être. Trouver un moyen de trouver d'autres choses, pareil, je te connais.
Ouais, je sais.
Tu dirais sûrement Monty Brown. Pour les matchs de combat championnat de télévision, dans le fond, c'est des matchs avec des temps limite de 10 minutes. Évidemment, parce que c'est un championnat de télévision, ils n'ont pas tout le temps au monde pour faire leur match. Fait qu'ils ont fait ce petit règlement-là pour ça.
C'est un bon règlement, je trouve.
Oui, ce qui fait que c'est le fun. Ouais. Sauf qu'en même temps, c'est le fun. En même temps, ça télégraphie pas mal quand ils commencent à dire 2 minutes au match, 8 minutes au match. Que...
Oui, mais c'est le genre de. Ben, je sais que AEW le font, mais c'est des matchs de 30 minutes, fait que ça fait moins. Je pense qu'il en parle juste aux 15 minutes. Sinon, ça fait très Fédération québécoise, là, où il le faisait de temps en temps aussi. Là, il disait le temps restant au match.
Ouais. Puis ça, AEW, souvent, c'est les premiers matchs de la soirée là, qui font ça, là, parce qu'il n'y a pas de commercial à Dynamite là, pour le premier match.
Ouais.
Puis c'est ça.
OK.
Libère l'inventaire du champion qui s'attaque au bras de Honky Tonk Man qui défait sa belle chevelure. Il n'est pas fin.
Non.
Après deux cheap shots au ventre, le challenger a pris l'avantage de son adversaire. Après ça, on voit dans la foule M. Mohamed Ali qui était là.
C'est vrai.
Première rangée. Puis c'est ça. Ils vont, on va en parler de lui plus tard, mais il était là.
Mais je pense pas qu'il était là pour le match Honky Tonk Man contre Johnny.
Ben, on ne sait pas. C'est peut-être un grand fan de Honky Tonk Man.
Oui, mais il n'était pas là pour le cage match, hein?
Non, mais ben non, mais ben non,
ben non.
Non. Ben non, mais c'est correct. Là. C'est une belle oh, appel. C'est quand même un bon coup pour eux autres. Là. En 1994, c'est pas quand même. C'est pas un pied de jambon, un pied de céleri. Là.
Non, c'est ça.
Il on était... dire un pied de jambon.
Il est encore lucide aussi. Puis c'est Mohamed Ali, probablement le plus grand champion. Lucide. T'es-tu lucide en 1994?
Non, il avait pris sa retraite il y a bien longtemps.
Ouais.
Il n'est pas,
ouais.
pas très lucide non plus, comme tu dis, je pense pas. Là,
ben,
Il
y
avait un peu de Parkinson. Puis,
Ouais, mais tu sais, à un moment donné que ça se détériore, là, mais ouais, ça reste que c'est Mohamed Ali. Fait que...
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Après ça, il y a Honky Tonk Man qui a essayé son shake rattle and roll, son petit neck breaker en twistant de même.
Probablement son meilleur move.
Ouais, mais son finish.
Son finish, ouais.
Un finish que Dandy, plus tard dans sa carrière, il faisait sans tomber.
Pour vrai?
Ouais, c'est le gars qui prenait le bump, puis il fait juste rester debout.
Super.
Ben, il est pas fou, il est plus capable de suivre le coup, fait qu'il a fait fuck off.
Ouais.
Mais son tentative de shake, rattle and roll était renversée avec un backdrop de Johnny B. Badd. Après ça, M. Johnny a manqué une charge dans le coin, puis Honky Tonk Man a essayé de, avec un pin avec les pieds dans les cordes, mais le ref l'a vu faire, fait qu'il a poussé les pieds. Ça, on annonce que 3 minutes restent au match. Après ça, il reste 2 minutes, mais Honky prend son temps avec un rear chin lock au lieu d'aller pour le coup final pour battre. Johnny B. Badd. C'est là qu'on voit que on voit la fin arriver. Là, on sait que ça va être la
ouais,
fin.
Ouais, c'est ça.
Et s'il arrêtait vraiment le goût de gagner, il aurait fait son finish bien avant ça.
Puis en même temps, t'as pas, mettons, tu sais, les matchs, mettons, beat the clock où t'as l'écran géant puis tu voyais combien de temps qui te restait dans ce temps-là, c'était vraiment plus le commentateur ou sûrement que l'arbitre donnait des cues aussi. Là.
On oreillette, là.
C'est ça, l'arbitre est toujours dans le match, mais c'était pas aussi tight que ce l'est, mettons, aujourd'hui. Même encore là aujourd'hui, des fois.
Ouais.
C'est ça.
Il n'y a rien de parfait, hein?
Non, exact.
Ça, il reste 1 minute et là, c'est là que Johnny B. Badd a un regain d'énergie avec un knee lift, un back elbow, mais son punch est ducké par Honky Tonk Man qui fait une back souplex. Mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Il y a un time limit draw.
Fait que merci d'être venu. Merci d'être là pour le podcast. On a fini.
Yes, merci beaucoup. Écoutez-nous sur Facebook, YouTube.
Mais avant, ça, c'est ça avant qu'il devienne Mark Merrill?
Ben oui, ben avant. Là.
Ben avant, été
Mark Merrill à WCW.
T'es sûr?
Sûr certain. Il n'a jamais été...
Même pas la dernière année? Ou...
Non, il a tout le temps été Johnny B. Badd, tout le temps.
OK.
La WWF qui est arrivée en 96 à WrestleMania, qui là, il était Mark Merrill.
OK.
Ou Mark Morrow, comme disait Todd Pettengill au début.
OK.
Puis c'est ça. Un coup que le temps était mentionné, on savait que...
Ouais.
On va y amener le time limit draw, là, on sent, surtout quand tu connais la lutte un petit peu, là, en marque.
Ouais. Ben oui. Hey, c'est quoi cette affaire-là?
Oh non, j'ai rien dit.
Au moins, après, écoute les shows.
C'est vrai. Bon point. Après ça, après le match, on a quand même essayé d'attaquer Johnny B. Badd, mais ça a été renversé, puis au lieu de manger une volée, ben l'autre s'est poussé.
Pourquoi pas?
C'est ça.
Ben ouais, tu sais.
Puis après ça, les deux sont affrontés de nouveau au Clash of Champions 29. Et encore là, remporté par Johnny B. Badd, mais après ça, il était supposé avoir un rematch à Starrcade 94, mais Honky Tonk Man a quitté la WCW après une dispute contractuelle avec Eric Bischoff. Puis encore à ce jour, les deux ne sont pas en bon terme, mettons.
Bon.
C'est Honky Tonk Man, en même temps, c'était un des chums d'Hogan, fait que ça m'étonne qu'il n'y a pas été capable de trouver une entente. Là.
Ouais. Dommage pour le Honky Tonk Man.
Ouais.
Ben,
fait que c'est ça. On va venir au match, un bon match, même si on savait, là, on voyait la fin venir. Les deux tours ont fait un bon match.
Ça a peut-être gâché un peu la fin, la dynamique pour la fin, là, parce que c'est pas évident. Là, tu passes, mettons, d'un chill lock, là, OK, c'est bientôt le finish, OK, il n'y a pas de gagnant, fait qu'il faut que tu fasses à croire qu'il va y avoir un gagnant, mais finalement, il n'y a rien. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais bon, un bon match.
Exact.
Après ça, Tony nous envoie un footage de Clash of Champions 28, le 24 août, quand Hogan s'est fait frapper à la jambe par un gars masqué. Puis après le coup, ils l'ont mis sur une civière, puis malheureux, mais il est revenu plus tard dans la soirée, c'est Hulk Hogan, hein, on s'entend.
Ben oui.
Pour son match contre Flair, puis là, le genou tapé. Puis après le combat, le masqué est revenu leur poignet. Fait que après ça, ils l'ont un peu tabassé à 3-1 avec Arn Anderson aussi qui était là.
Ouais.
Et au main event, le 9 octobre, main event, dans le fond, un petit fun fact de même, c'était avant qu'il y ait Nitro, évidemment.
Mm-hmm.
Puis dans ce temps-là, c'était Saturday Night main event, c'était leur... Saturday Night, le WCW Saturday Night, pardon. C'était leur Nitro, si on veut.
Nitro était avant en 96 ou 95?
En 95, oui.
95, oui, c'est ça.
Ouais. Il me semble que c'était en janvier, si je ne me trompe pas.
Ça ferait du sens. Tu commences la nouvelle année avec un nouveau show. Hein?
Non, bien plus tard que ça. Je pense que c'est arrivé en septembre, je pense. Oui, parce qu'il y avait Lex Luger qui était parti de la WBF, qui était là après. Puis il est parti au mois d'août en 95. Fait que c'est pas mal début septembre, je pense.
Hmm.
Après ça, on nous a montré une vidéo amateur tournée à Chicago. Où est-ce qu'on a vu Ric Flair et Mr. T sortir du resto de Michael Jordan ensemble. Monsieur T qui était... l'arbitre spécial pour le match de la soirée, la main event.
Mr. T qui a tout le temps un peu baigné dans le monde de la lutte. Hein?
Oui.
Pas été dans l'Hall of Fame pour rien.
Ouais, son gros speech avec sa mère. Là.
Oh, wow. Allez écouter ça si jamais vous avez une chance.
Oui.
Ça vaut la peine.
Oui. Puis c'est ça, fait que là, les commentateurs, ils parlent comme quoi ils ont peur qu'il soit dans le back pocket de Ric Flair, évidemment. Mais est-ce qu'il l'est vraiment à suivre?
On verra ça dans le main event.
Oui. Après ça, match numéro 2. Pour le championnat par équipe de la WCW, Pretty Wonderful, l'équipe composée de Mr. Wonderful, Paul Orndorff et de Paul Roma, Pretty Paul Roma, enfin Pretty Wonderful, combien les deux.
Et voilà.
Affronter l'équipe de Stars and Stripes, l'équipe de Marcus Alexander Bagwell et de Patriot, un de tes préférés.
Ben oui.
Ouais. Qui n'aime pas de Patriot, hein?
Ouais. Ben.
Moi, j'aime les Patriots, mais toi, t'aimes les Patriots.
Ouais.
Mais on parle pas trop des Patriots parce que...
Yeah, c'est...
Après ça, c'est ça, Tony nous a dit que Bagwell, justement, l'année d'avant, il était en champion par équipe aussi en même temps, mais cette fois-ci, c'était avec Too Cold Scorpio qui était aussi après ça.
Flash Funk.
Exactement.
Yeah. C'était cool, lui. J'aimais bien.
Puis après ça, ils nous ont dit aussi qu'il avait gagné les ceintures à Saturday Night, justement, qui était leur Nitro de l'époque. Mm-hmm. Ils ont gagné ça le 25 septembre. Ils ont gagné ça de Pretty Wonderful, justement. Ça, c'est ça. Puis, comme j'ai dit, 93, il était dans les ceintures par équipe encore, mais c'est les Nasty Boys cette fois-là qu'ils avaient battu.
J'ai toujours. Tu sais, le physique de Paul Orndorff, c'est pas mal ça qui fait sa réputation, si on peut dire. Il avait un excellent physique, mais j'ai jamais trippé sur ce lutteur-là. Hein.
Monsieur Wonderful?
Ouais.
Ben, c'est parce que c'était plus un vieux lutteur. Là. C'est pas.
Ah oh, ouais, mais. Je sais pas. Mais même, j'ai vu des vieux matchs de lui là, par curiosité. Puis on dirait que c'était comme un genre de Lex Luger de l'époque. Mais j'aime quand même mieux Mr. Wonderful que Lex Luger.
Ben, c'était un meilleur travaillant que Lex Luger. Là,
ouais, c'est ça.
Il avait un bon look. Sauf que c'est sûr que WWF, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de monde qui avait le même look que lui à peu près. Là.
Ouais.
Mais si j'ai à suggérer un match au monde pour voir Paul Orndorff, je suggère un match qui avait contre Hulk Hogan, un combat de cage justement.
Oui, je me souviens.
Le Saturday Night Main Event, je pense, en 1988, je pense.
Ça, la date, je ne pourrais pas te dire.
Je me rappelle le match. Le match avec le fameux photo finish, là, les deux en même temps, mais c'est Hogan qui est tombé une fraction de seconde avant.
Excellent match, pour vrai.
Ouais, je suggère de régler ce match. J'essaie de le trouver, je vais le mettre dans un commentaire. Pour vrai, là.
Oui, pour vrai.
C'est une belle manœuvre de Roma qui jump dans le ring, qui jump la troisième corde, mais de dos. Pour se retourner sans mettre les mains sur les cordes pour tourner de l'autre bord, c'était impressionnant, ça.
Ouais.
Je m'attendais pas à ça quand j'ai vu sauter de même. Je dis, il va sauter, faire un back elbow. Mais non, il saute dans les airs, il monte dans le turnbuckle, puis il se retourne de bord. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, des fois, qu'il faut juste sortir. Ouais.
Ben, moi, je m'attendais à rien de moins de Roma.
Oh, ouais, c'est un lutteur qui a un bon look, puis c'est un good hand. C'est juste que ça n'a pas été le gars le plus charismatique, si on veut.
Oui, puis pour vrai, quand tu n'es pas charismatique dans la lutte, il faut vraiment que tu sois bon dans le ring, une coche au-dessus des autres. Là.
Lui, il était pas excellent, il était bon, il était juste bon, il était correct.
Mais il y en avait combien comme lui, puis c'est ça l'affaire.
Oui. Mais je sais pas si tu sais, mais maintenant, il y avait des shoot interviews avec lui, puis il disait comme quoi Ric Flair était jaloux de lui.
Pour vrai? Non, ça, je savais pas.
Parce qu'il était plus beau que lui, plus talentueux, puis toute l'équipe. Ben là, la beauté m'en fout pas mal. Là. Je voudrais pas là-dessus, mais le talent, on s'entend qu'il y a comme un petit gap entre les deux.
Oui, vraiment.
Ouais. Pretty Dumb. Oh. Ça, les Hills font de la bonne job à travailler, ben, dans le fond, ils ont travaillé Bagwell en coupant le milieu du ring, là, un peu comme FTR fait encore de nos jours.
Ah, ben ouais, tu utilises des thèmes très techniques ce soir.
Les termes de lutte, ben oui.
Ben oui, couper le ring.
Couper le ring en deux, ben oui, c'est ça. Comme ça, il ne peut pas taguer son partner, puis il est dans le trouble.
T'écoutes vraiment beaucoup d'AEW, ça paraît, parce qu'ils disent souvent ça dans les matchs.
Ben, c'est ça qu'il faut que tu dises quand tu fais les matchs de lutte. Faut que
tu dises les termes, puis tout. Tu fais pas comme Michael Cole, puis Vintage...
Oh, Vintage Undertaker.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Puis ça, ils ont coupé le ring en deux, ils ont triché dans le dos du ref, puis regarde, très bel job des Heels. Des méchants.
Ouais. Les bons vieux matchs tag team. Tu sais, quand le mot tag team veut dire quelque chose, là, en WWE.
Ouais. Écoute pas le podcast, malheureusement.
Non.
Bah, peut-être. Puis après ça, il y a eu le pop du match, dans le fond, c'est Monsieur Wonderful, maintenant. Roma, il a dit « Ah, crank-toi », puis j'ai été dans les cordes de même. Il est revenu, il était de même comme ça, puis il a fait son elbow, puis la foule a popé comme si c'était genre Hulk Hogan qui battait
Rick Flair. Ouais, mais c'est ça.
C'est pas mal long, il a fait une petite danse de même, il shakeait le booty, puis ça a fait un petit elbow.
Mais ça, c'est le fun, parce que c'est une époque où que le monde embarquait plus aussi. Là.
Ouais, mais c'est sûr, mais oui.
C'est...
On y croyait plus en même temps. Là.
Ça fait drôle à dire quand tu fais un podcast sur Internet de dire « Ah, la belle époque avant Internet. »
C'est vrai, hein?
Ouais.
Pardon. Après ça, Petrus en a eu assez maintenant. Il était rentré dans le ring pour faire, évidemment, tout le monde dans le grand même temps en train de se battre.
Hey, mais je veux juste être sûr, là. Le Patriot, c'était pas Hogan qui le faisait cette soirée-là.
Non, tu te trompes avec Mr. America, là.
Ouais, c'est vrai. Excuse.
Pas le même.
Mais non.
C'était pas Hogan qui faisait Mr. America, là.
Non?
Mais non, c'était pas lui.
Ok, parfait.
Pareil comme Juan Cena, c'était pas un gars de Mexique. Là.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça, comme j'ai dit, il en a fini par la roisser pour rentrer tout le monde en même temps dans le ring, mais malheureusement pour lui, il s'est fait sortir par l'arbitre. Pendant ce temps-là, Bagwell avait un fisherman suplex pour le compte.
La souplex du pêcheur?
Oui, exactement.
OK.
Puis la prise de M. Perfect, évidemment.
Ouais.
Puis à un moment donné, ça, pendant que l'arbitre avait dos tourné, malheureusement pour Bagwell, il a reçu un flying elbow drop de la troisième corde de Paul Roma qui était excellent. Il y a eu de l'élévation, le coup était vraiment nice.
Ouais.
Puis après ça, malheureusement, pour Sergeant Stripes, ils ont perdu leur ceinture parce que ça a fait le compte de 3 et la victoire pour Pretty Wonderful, nouveau champion par équipe.
Très mérité, ils ont bien travaillé. Une bonne équipe. Ensemble, pour vrai, ça futait.
Ouais. Excellent match, un combat simple avec du bon travail des Hills, puis des beaux spots, puis un finish clean. Ben, clean.
Ben, ouais.
Dans le sens qu'il y a eu un pin, pas dans le sens qu'ils n'ont pas triché. Là.
Ouais, comparé, c'est mon premier match, mais les deux premiers matchs étaient solides quand même.
Ouais. Ouh. Oh. Mort. Les histoires de peur.
Putain, ben, l'Halloween, oh, ça fait peur.
C'est vrai.
Ouais.
Interview time.
Il y a quelqu'un en arrêt de toi.
Même pas vrai. Tu m'as eu. On m'a revengé au quiz.
Oh.
Interview time avec Meijin O'Cullen qui est avec Seth Sherry et Ric Flair. Ric Flair dit que la célébration est déjà commencée. Pendant ce temps-là, Sherry, qui est pas capable de tenir sur ses deux pieds, là, qui shake comme une bonne et qui crie comme une défoncée. Là.
Ouais.
Puis ça, il dit que la plus grosse star de la CW, la plus grosse superstar, il a pas dit le mot lutteur, va nous quitter ce soir quand il va battre Hogan, parce que, tu sais, dans Ric Flair, c'est le meilleur lutteur, tandis que Hogan, c'est la meilleure superstar.
C'est vrai.
Puis, il disait que les deux vont marcher dans l'allée, les deux vont monter dans le ring pour s'affronter face à face, mais qu'il va être le seul à sortir vainqueur, puis dans une coupe d'heure, Hogan, sayonara. Woo!
Oh, sayonara!
C'est ce qu'il a dit, je répète.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais. Après ça, on va au Saturday Night, WCW Saturday Night, pardon. On voit Kevin Sullivan engueuler son frère Dave.
Pas Dave qui fait le quiz, là.
Non, pas Dave qui fait le quiz.
OK. J'ai peur.
Ouais. En lui disant que faire ce qu'Hogan dit, genre prendre les vitamines, say your prayers, ça marche pas pour du monde comme eux autres.
En quelle année Hogan est parti de la WWF?
En 93.
OK. Fait que c'est pas longtemps après, là. C'est un an après, même pas. Ouais.
Sa dernière apparition avant qu'il revienne en 2002, c'était. Il avait lutté contre Yokozuna, King of the Ring 93.
OK.
Puis il avait perdu avec le. Tu sais, il avait amené le finish du match. Il y avait un photographe.
Mm-hmm.
Il a fait une photo de lui, mais il y avait une boule de feu qui était dans sa face.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah,
c'était Harvey Whippleman qui le faisait justement, le
caméraman. Ce spot-là, ouais.
Puis il a perdu à cause de ça. Puis c'est ça qui a fait sa sortie à la WBF. Mais en tout cas, à la télévision, en tout cas, parce qu'il n'y a pas de possibilité après ça d'un tour de l'Europe ou du Japon, les deux.
Fait que, après ça, il a repris l'idée de la boule de Freak Ultimate Warrior.
Ouais, mais disons que ça lui est retombé dans la face. Dans, ouais. dans les deux sens du terme. Puis après ça, Dave Sullivan a fait gifler son frère. Puis plus tard, dans le même show, ben, Kevin Sullivan a attaqué son frère pendant qu'il était acteur du ring avec une coupe de petits coups de pied bien placés.
Ça se fait pas, ça, son propre frère.
Mais non, hein. Long flesh and blood, hey.
On n'a jamais vu ça dans la lutte en plus. Là.
Ce qui nous amène au match numéro 3. Oh. La batteur entre les deux frères.
Ah, oh, ben tabarnak, que c'est ça. Je m'attendais pas à ça.
Benoît Langlais. Non, c'est pas Kevin Sullivan a affronté son frère Dave Sullivan. Dave était tout habillé en Hulk Hogan ce soir. On dirait un gros Hulk Hogan overweight. C'est ça. Dans le fond, regarde. C'est ça. Ouais. En fond, punch, kick, kick, punch. Des fois, tu tombes la Finn Balor de Kevin Sullivan. C'est peut-être là qu'il tient son inspiration.
Il faisait-tu des sling bangs dans ce temps-là?
Non, je ne pense pas. En tout cas, pas Kevin Sullivan, en tout cas.
Non. Ça aurait été malade. Des sling bangs des frères Sullivan.
Ouais. Puis il y a ça, punch kick, foot stomp, boring. Dans le fond, le ouais. Il n'y a rien à vraiment à dire. Là. Le finish du match, c'est les deux bras à l'extérieur du ring. Puis Dave Sullivan réussit à rentrer juste avant le compte de 10 pour la victoire.
Pas mal le downfall du pay-per-view.
Ouais. Un match boring as hell. Vraiment, vraiment, vraiment plate. En même temps, je m'attendais pas à un classique entre ces deux-là. Là.
Ouais. Mais c'est plate parce que dans le fond, c'est une bataille entre frères. Ça devrait au moins. L'intensité devrait être au moins là. Puis, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui est venu nous chercher. Mais, tu sais, en même temps, y a-tu vraiment quelqu'un qui care about les frères Sullivan?
Pas vraiment, non.
C'est ça.
Bref, next.
Ouais.
Après ça, on voit du footage vidéo de Dustin Rhodes qui cherchait un partenaire pour affronter Terry Funk et Bunkhouse Buck. Hey, j'adore Bunkhouse Buck. Il était cœur.
Ouais, ouais.
Non, j'aimais son look. Même dans le temps, j'aimais son look. Puis Terry Funk,
quoi, hein? Sa carrière à lui, ça ressemble à quoi? Moi, je me semble.
Pas grand-chose, mais j'ai un fun fact après son match tantôt. Il y a un combat tag en équipe avec lui et Terry Funk contre les Nasty Boys. Après le match, j'ai un fun fact sur lui.
Ok, parfait.
Mind blown. Ça, on voit ça, comme j'ai dit, on voyait Dustin Rhodes chercher un partenaire pour affronter Bunkhouse Buck et Terry Funk.
Ouais.
Il a réussi à demander à Arn Anderson, The Enforcer.
Mm-hmm.
C'est fou à cette heure, hein? La Nightmare Family. Les deux sont dans la même famille en ce moment. Puis là, en 94, ils sont en équipe ensemble.
C'est vrai.
Le monde est petit.
Ouais, mais de toute façon, Cody a quand même rassemblé pas mal tous les bons amis ou tous les WCW guys qui étaient avec son père, là, si on veut.
Ouais. Ouais, il fait une bonne job.
Ouais, c'est ça.
Puis ça, le match a lieu justement à Bash at the Beach en 94 également. Sauf que Arn Anderson s'est tourné contre Dustin avec un DDT. Hey, le trou de cul. Hey, j'avais pas vu ça venir, moi.
Arn Anderson, c'est pas son genre, voyons là.
Non. C'est un gars fair and square, là, comme Ric Flair.
Chose qui va arriver sûrement à un moment donné aussi, à AEW.
Ben, il avait teasé un moment donné quand c'était MJF contre. Non, c'était Wardlow contre Cody, puis il y avait la cage, puis il voulait la fermer d'en face, mais il a fait un fake pour MJF, là.
Ah ouais.
C'est sûr qu'éventuellement ça va arriver là.
Mm-hmm.
Puis c'est ça. Arn Anderson il a dit que après le match et après ça va tourner contre Dustin, ben les cinq étaient dessus, là. Bunkhouse Buck, Terry Funk, Ming et lui, le colonel Parker, leur manager, qui était aussi Tennessee Lee à la WBF avec Jeff Jarrett.
Hein? Pas dans l'encyclopédie pour rien, là. Ça veut dire pas ça, hein?
Non. C'est
ça. Et yes, voilà.
Oui. Puis, Arn l'avait dit en promo plus tard qu'il avait fait un pack avec le diable, mais que malheureusement, le diable voulait avoir son dû.
Il
pas trusté ça, un gars des Four Horsemen.
Karma is a bitch.
Oui. Quelque chose qui n'était pas une bitch, par exemple, c'est le match numéro 4.
Oh, tabarnak, OK.
Oh non. Arn Anderson a affronté, bien évidemment, Dustin Rhodes pendant que Anderson était accompagné de Ming, le bodyguard de la stable de Colonel Parker, et de Colonel Parker, évidemment.
Ming, que j'adorais prendre à WCW Revenge.
Oui, un coup que tu l'unlockais avec les Tag Team Titles, là, il était écœurant.
C'est vrai.
Je sais pas, un autre fun fact aussi, là, tu sais, à Revenge, il y avait une vidéo d'intro. Là.
Ouais.
Il y avait un moment donné, il y avait un gars qui était dans le camion quand Sting était devant lui, puis il a arrêté, il a fait ça de même.
C'est vrai.
C'était le bonhomme qu'ils ont pris, c'est celui de Ming.
Mais oui. Je me souviens de ça, moi.
Ah
oui, on va le voir dans notre review de jeux vidéo si la COVID peut finir maintenant.
Hey, s'il vous plaît, juste pour ça, ça vaudra la peine. Au moins une petite semaine de break, au moins. Là.
Ouais, pour qu'on le fasse, comme ça, au moins, on va le taper, puis après, ça va être fait.
Ouais. Puis, début de match rapide en avantage du Natural, Dustin Rhodes, pas The Natural, le rapper. Mais Double A a profité d'une erreur pour. L'erreur de Dustin. C'est ça, l'encyclopédie, on parle de tout.
The Natural is back.
Oui, c'est son nom. Anderson a profité d'une erreur de Dustin pour prendre l'avantage du match, comme je viens de dire. Mm-hmm. Et, sauf que Anderson a manqué une clothesline puis a frappé le poteau. Puis Rose en a profité pour travailler le bras du Enforcer. Smart.
Ouais.
Ça, il a sauté. Rose a sauté proche des cordes d'Arn Anderson, mais Double A s'est tassé. Fait que Dustin a comme clearé le ring. Puis il a clearé même les steps qu'il y avait en bas du ring parce que l'autre, pour leur entrée, il y avait des steps.
Ouais.
Il a même clearé ça, puis il était dans la rampe. Là. C'est vraiment un assez beau bump. Là.
Ça, c'est Arn Anderson, c'est un des lutteurs que j'aurais aimé voir plus lutter, mettons. Je te dirais, mettons, aujourd'hui, là, écouter des matchs d'Arn Anderson dans son prime. Là. Tu sais, que ce soit lui qui soit là dans son. C'est un des lutteurs que je regrette de ne pas avoir vu lutter plus souvent en live, mettons. Hein.
Ouais, non, c'est. Dans le ring, là, c'était un des meilleurs lutteurs techniques qu'il y avait. Là,
ouais. Pis, une petite bonne tête de lutte. Là.
Ouais, tu sais, c'était pas le gars qui avait le meilleur physique. Là. Il me fait penser un peu, on en parle depuis tantôt, là, FTR.
Ouais.
D'autres aussi, ils n'ont pas des super physiques, mais ça fait que dans le ring, c'est des machines pareilles. Là.
Ouais, exactement.
Arn Anderson, ça paraît pas pour rien qu'il compare souvent les Tully et Arn à FTR.
Ouais.
Après ça, quand Rose a fait un body scissors à Arn Anderson, dans le fond, il l'avait pogné entre les jambes, ciseaux entre les jambes.
Ouais.
Arn Anderson, il était smart. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est promené jusqu'au corde, puis il a comme fait la guillotine dans la corde avec Dustin. Il était déjà placé pour ça. En plus, c'était vraiment un beau spot, ça aussi.
Ouais.
Puis après ça, comeback de face avec Dustin qui va d'un. Ben, dans le fond, le comeback de face habituel, là, des clotheslines, des body slams, puis tout le kit. Là. Puis malheureusement, quand il a manqué un knee drop, Arn a fait un petit sunset flip, mais malheureusement, il a pris des cordes. Puis quand l'arbitre l'a vu, ben, lui aussi, il s'est fait kicker le bras de la corde. Pendant que Anderson plaidait son innocence, de toute façon, on en a profité pour faire un roll-up lui-même pour le compte de 3, victoire surprise.
Oui, excellente chimie entre les deux. Deux bonnes têtes de lutte. Puis tu sais, la psychologie, là, tu voyais que
c'est ça, c'est ce qu'il faisait. Ouais, c'est ça, tout un match. Les deux lutteurs avaient une histoire qui se tenait, puis l'exécution était parfaite aussi des moves. Là. Il y avait pas de temps mort, il n'y avait pas de moves que tu faisais. Ah, c'est. Il semble qu'il a manqué celle-là. Là. C'était vraiment genre. Vraiment.
Ces deux gars intenses, tu ne verras pas des moves un peu mous. Là, ouais. C'est vraiment ces deux lutteurs qui rendent quand même bien leur move en étant sécuritaires pareil. Là.
Exactement. Ouais. C'est stiff, ça rentre au poste, mais ça fait pas mal.
C'est ça.
Puis c'est ça. Match à date, c'est mon match of the night à date.
Ouais, ben oui, facile.
Est-ce que ça va tenir le coup? On sait pas. Ben moi, je le sais. Là.
Ben ouais, moi aussi, j'ai écouté le show.
OK. Parfait. Après le combat, ben justement, un peu comme le thème de la soirée, là, Arn a essayé de faire un close line. Il a fait un close line justement à Dustin qui a réussi, qui a fait le petit flip à la Rikishi. Là.
Ouais.
Upside down. Puis les trois ont essayé d'attaquer encore une fois Dustin, mais les arbitres Nick Patrick et Randy Anderson sont venus chasser les Heels.
Nick Patrick qui avait été à WWE après Invasion. Il était dans la gang de lutteurs arbitres de l'Invasion.
Oui, il y avait un match contre Earl Hebner à Invasion, justement.
Oui, c'est vrai. Invasion
2001, il y avait un match entre
les. Tu vois que l'Invasion n'a pas marché quand il y a un match Nick Patrick contre Earl Hebner.
Ouais. En même temps, le match était correct. Là. C'était un match de comédie, si on veut. Puis c'est, je ne sais pas si tu te souviens, l'arbitre spécial, c'était Mick Foley.
Pour une des rares fois, voyons.
Il y avait un gros brawl avec Sardin avec les arbitres de WCW et les arbitres de WWF. Ça, c'était drôle.
Ça, on va en reparler à un moment donné parce que de toute façon, on a.
Pour rien, je quoi,
100, ouais, c'est ça, 100 ans de lutte à parler et plus. Là. Mais on va en reparler d'Invasion. Ça.
Très, très bien.
Et c'est bon. On en voit à dire là-dessus. Moi.
Oui. Interview time. Cette fois-ci avec Mean Gene, et qui est avec Hulk Hogan, Jimmy Hart et Brother Brudai. Évidemment, Bruce Beefcake.
Ouais.
Puis Hogan, il pensait qu'il pouvait arriver à Détroit sans faire de bruit incognito. Mais malheureusement pour lui, il dit qu'il y avait trop d'Hulkamaniacs devant lui et qu'il n'a pas été capable.
Ben, c'est quand même la ville du rock.
Exactement. Le Rock ou le Rock?
Mais non, les trois villes du Rock, comme le film. Là.
Ah, OK, OK.
Ouais.
Puis il dit que la dernière fois qu'il était ici, il a slamé un géant. Après ça, il dit God bless you, André, évidemment. Yes. Puis il dit qu'il va avoir juste la place pour un seul gars après ce soir pour mener la WCW vers le futur. Et c'est lui-même, le Hulkster Hulk Hogan. Puis il dit qu'il fait confiance à Mr. T. Puis que Ric Flair, c'est à Ric Flair qui fait pas vraiment confiance. Il fait confiance à Mr. T, mais pas Ric Flair.
Ouais, oui, ben j'aurais plus confiance en Mr. T qu'en Ric Flair aussi. Hein.
Ouais. Et Hogan, il va avec, pour terminer, « What you gonna do when I retire you? »
Oh! On va reparler je vais t'en reparler d'Hogan, mais je vais attendre qu'on soit rendu au main event un peu.
C'est bien parfait.
Ouais.
Ça, on a un petit recap vidéo de Fall Brawl 94. Ça, c'est... Je le savais, là, mais ça fait bizarre de voir ça. Stunning Steve Austin! Avec des cheveux. Puis un look totalement différent.
Ouais.
Ça, il était censé affronter Ricky the Dragon Steamboat, un autre excellent lutteur, ça aussi. Mais pour le championnat des États-Unis, mais malheureusement, Steamboat était blessé au dos legit, là, pour vrai.
Ouais.
Puis, évidemment, Austin a fait son baveux. Il disait comme quoi qu'il est chanceux de ne pas avoir le match parce que sinon, il aurait mangé une volée. Puis, le président de l'époque était Nick Bockwinkel, un ancien champion de la AWA. C'était lui le GM, puis le GM, ouais, le président, si on veut. Puis il avait redonné Austin à défendre sa ceinture right on the spot contre un lutteur mystère.
Mm-hmm.
Puis Austin, il était pas content, il a chialé pas mal. Et l'adversaire mystère s'est avéré être...
Qui?
Oh! AXA Jim Duggan! Tout frais de la WWF, évidemment.
Puis, Pas capable. Je déteste Jim Duggan.
35 secondes plus tard, avec un backdrop, il a gagné la ceinture des États-Unis. Ça paye à War Hogan comme grand chum, hein?
Ouais.
Pas pour rien qu'Austin était frustré à WCW à part ça.
Ouais, puis en plus, tu sais, moi j'ai vu quand même, je te dirais, pas mal de matchs de Stunning Steve Austin à WCW. Tu sais, puis pour vrai, il était tellement bon, là.
Ah, on parlait d'Arn Anderson tantôt, là, c'est pas ouais. le même genre vraiment, mais les deux étaient techniques au bout. Là, Austin, il y avait de la rapidité, ses moves rentraient bien. Puis il était charismatique quand même, là, je comprends pas pourquoi. Ouais.
Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Il aurait pu facilement avoir un spot de mid-card à WCW avec toutes les merdes qui a passé là. Ouais. C'est méchant un peu, là, mais.
Ouais.
Y en a qui ont eu des chances, là, puis des ceintures qu'ils auraient peut-être jamais dû avoir, mais. L'affaire avec Steve Austin à WCW, c'est qu'il ne se protégeait pas beaucoup.
Non.
Mais, c'est pas pour rien qu'il y a eu beaucoup de blessures. Là. Si tu regardes les bombs qu'il faisait, tu sais, à WWE, c'était moins pire. Là. Il était ouais. plus. Il avait modifié un peu son style de lutte, mais à WCW, moi j'ai vu des matchs de cage, entre autres avec Sting. Je pense que c'était un match. C'était pas Sting contre Austin, mais je pense que c'était un 8-man tag dans une cage ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement c'était quoi le show.
War Games, sûrement?
Probablement War Games, puis à un moment donné, Sting pitch Austin. Hey, ça n'a aucun sens comment il se pitch.
Austin, il.
Fait penser à Lesnar, là, quand Lesnar se fait lancer dans le poteau, puis qu'il met pas ses mains, mais il met sa face. Là.
Ouais, c'est vrai, ouais, il bloque avec sa face, lui, Brock.
Même genre, là, pour.
Ouais. Non, Austin, là, il y avait vraiment tout pour lui. Là. C'est dommage que. Bon, en même temps, dommage, ça dépend de quel côté de la médaille que t'es. Là.
Tabarouette.
Dommage ouais. WCW, puis bravo pour WBF, là, même si ça n'a pas été dès le début, évidemment.
Ouais. Mais tu sais, il y aurait. Tard, c'est bon pour lui parce qu'il ne serait jamais devenu ce qu'on avait parlé selon nous à Star, le plus grand lutteur de tous les temps, peut-être.
Ouais. Puis ça, justement, match numéro 5 pour le championnat des États-Unis. On a évidemment AXA Jim Duggan qui défend sa ceinture contre Stunning Steve Austin. Puis ça, Austin a attaqué Duggan avant la cloche sonne pour prendre l'avantage sur lui.
Ouais.
Duggan a tenté une back suplex, puis Austin est tombé sur son genou et son pied. Là.
Ouais.
Puis après ça, il s'est attaqué à la jambe de Duggan pour prendre l'avantage pour une couple de minutes. Plus tard dans le combat, Austin a donné un coup de pied au ventre de AXA, mais au lieu de faire un stunner, il a sauté de la deuxième corde avec un double axe handle. Ça aussi, tu sais, quand tu checkes ça, là, qu'il fait dans son coupé dans le ventre, puis tu t'attends que tu es habitué de voir
ouais.
un stunner.
Ouais.
c'est spécial. Là, tu fais oh, ah, mais non, on faisait pas ça. Il faisait juste un kick, puis il monte à droite, deuxième corps. Je fais ah,
ouais, okay. Le réflexe de regarder des vieux matchs avant le live Stone Cold.
Ouais. Puis ça, son double accent d'eau a été réussi. Son deuxième aussi, mais là, évidemment, à un moment donné, Jim Duggan ne voit pas être le gars le plus smart au monde. À un moment donné, il voit que. Ben non, mais c'est vrai, là.
Non, ben moi, j'aime ça quand tu rides Jim Duggan parce que j'approuve tout ce que tu dis.
Non, d'accord, c'est noté.
Ouais.
Il y a ça, Duggan, après avoir renversé ça, il a fait un petit comeback. Jusqu'à temps qu'évidemment, Austin fasse son chicken, bien dans le coin là, avec l'arbitre dans ses bras. Puis qui, pendant ce temps-là, Duggan a reçu un coup de pied dans les. Un coup de jambe dans les gorlots.
Dans les bijoux de famille.
Exactement. Dans les 2x4.
Oh. Bonne blague.
Merci. Et alors ça, on a tenté un splash à troisième corde, mais ça a été. Ben, dans le fond, ça n'a pas été réussi. Les Duggan s'est tassé, évidemment. Puis après ça, il a fait son vrai comeback de face. Jusqu'à temps qu'il essaie son 3-point stance clothesline, qui était, dans le fond, il se met en position de tackle de football, dans le fond. Mm-hmm. Puis il a couru vers Austin avec son close-in, mais Austin l'a backdroppé à l'extérieur du ring, ce qui a fait que c'était une disqualification. Parce que dans ce temps-là, c'est un règlement à la WCW. Tu ne peux pas lancer un gars à la troisième corde, sinon c'est une disqualification.
Bizarre quand même.
Ouais, mais je pense pas que ça a duré tant longtemps que ça. Là.
Ben, ça, c'est dans les... Ouais, c'est ça, vas-y.
C'est dans l'époque de Bill Watts, là.
Ouais,
qui était vraiment genre shoot, là, parce que d'autres choses. Hein, Manny, il voulait même pas que les lutteurs aient des matelas en bas du ring, là, que ça soit du concrete. Là.
Ah, ça, je savais pas, par exemple.
Qui a l'air plus tough.
Ouais.
Si, mettons un gars, il se faisait casser à gueule par quelqu'un qui n'est pas un lutteur, ben, il perdait son push ou l'enfant même, parce que lui, il disait, t'es pas censé te faire péter à gueule quand t'es un lutteur.
Bill Watts, c'était-tu dans la même famille que Louis J. Pro?
Non, pas tout.
Ok, parfait.
Mais Bill Watts, non, il a même été à WWF en 95 après ça, Bill Watts.
Ouais.
Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Là.
Ben, moi, dans ce temps, il était-tu tough, Bill Watts, ou c'était juste
c'est vraiment un gars là, de la vieille école, là, qui était dans les années 70-80. Là,
il était capable d'en donner, mais il était capable d'en recevoir aussi, non?
Oui, c'est pas un chicken, c'est pas juste un cap.
Ok. Si t'es capable d'en recevoir, c'est correct.
Ouais, c'est un gars, un tough guy.
Merci à Stunning d'avoir rendu le match intéressant.
C'était mon prochain point. Mais en fond, après le match, encore une fois, Austin essaie de frapper Duggan.
Ouais.
Mais quand Duggan a pris son 2x4, Austin s'est poussé. Un thème de la soirée, ça, le heel qui attaque le gars à la fin et qui saute.
Ouais. C'est sûrement qu'ils ont fait. C'est-tu Rousseau qui bookait dans ce temps-là aussi?
Non, c'était vraiment Bill Watts et Kevin Sullivan puis des gars de même. Là. Bischoff un peu aussi, mais pas beaucoup.
Ouais, non, c'est ça.
Puis c'est une belle performance d'Austin avec, mettons, un Jim Duggan très limité, si on peut être poli.
Ouais, ben, comme dans toute sa carrière. Là.
Ouais. Puis ça, un très bon match grâce à Steve Austin, évidemment.
Merci, Steve.
Ouais. Ça, 9 mois plus tard. Austin était blessé au triceps pendant une tournée du Japon.
Oh.
Il s'est fait renvoyer par FedEx par M. Eric Bischoff, le président à ce temps-là.
Oui.
Il trouvait qu'il était dur à travailler avec, puis aussi qu'il trouvait que c'était un gars qui n'était pas commercialisable.
C'est beau. Probablement la plus grosse erreur d'Eric Bischoff à vie.
Well, tu sais, en même temps, c'est facile à dire maintenant.
Oui. C'est un peu repêchages de sport, là.
Ouais. Mais tu sais, WWF, ça leur a pris vraiment une couple d'événements spéciaux là, pour vraiment que ça arrive à Austin 316. Là.
Ouais.
Parce que quand il a gagné King of the Ring, là, c'était pas lui au début que t'as gagné de King of the Ring, c'était Triple H.
Ouais, c'est vrai. Mais tu sais.
Il y avait le Curtain Call justement qui a fait qu'il a perdu son push.
Tu penses-tu que. Mettons, même sans le King of the Ring, que c'est un moment charnière de sa carrière, qu'il aurait pu devenir Stone Cold pareil?
Par la WCW?
Non, WWF.
Sans le Austin 316?
Ouais.
Ben, il était pas mal par là avant ça. Là. Il avait lâché Ted DiBiase, le Ringmaster. Là.
Ouais.
Il était un peu plus. Ben, il était sérieux avec Ted DiBiase aussi. Là. Ouais. Mais il était pas mal plus sérieux le Stone Cold qu'on connaît là, dans le fond. Là.
Ouais. Parce que, tu sais, même avec Ted DiBiase, ça faisait une belle paire ensemble. Là.
Oui.
Mais quoi? Pourquoi tu ris?
Elle faisait une belle paire, oui.
Mais non, mais tu sais ce que je veux dire, là. C'est, ça matchait.
Ouais.
C'était un duo qui faisait money.
Ouais. Un money
team. Parce que tu sais, il y a beaucoup de monde qui connaissent la carrière de Steve Austin à partir de Stone Cold.
Ouais.
Tu as une autre partie qui la connaissent depuis WWF. Mais tu sais, si tu mets, tu matches CW ensemble, c'est une des plus belles carrières de la lutte, Austin. Ouais. Niveau match aussi, là. Ouais. Pas...
L'affaire qu'il y avait, c'est qu'à WCW, quand il commence, ben, en 1994, c'est qu'il était très bon dans le ring, c'est un gars super technique.
Ouais.
À WWF aussi, au début, quand il est arrivé les premiers coups, il était pas mal de même aussi. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben justement, avec la blessure d'Owen, quand Owen a fait le pile driver, ça a tout fucké sa carrière. Fait qu'après ça, il a fait un style de lutte différent.
Ouais.
Ce qu'il faisait dans le temps, ben, il était plus vraiment capable de le faire. T'sais, il était capable de faire d'autres choses très bien. Mais ces affaires-là, comme ça, il avait plus de misère à cause de son coup, évidemment.
Là, j'ai un petit blanc dans le temps. Là. La blessure contre Owen, c'était en...
97, SummerSlam
97, oui. OK. Puis son match contre Brett, c'était en 96, hein? Où est-ce qu'il saignait avec le sharpshooter?
C'est en 97, ça aussi.
C'est la même année?
La même année, oui. À WrestleMania, ça, pour le sang, là.
Fait qu'avec Brett, c'était avant?
Ben, Brett, il y avait ce match-là, justement, on connaît le gros moment, avec Austin qui saigne, qui abandonne pas, là.
Ouais, c'est ça.
Mais il y avait eu une rivalité avant ça aussi. Il y avait un match à Survivor Series 96 qui était excellent.
Ouais.
Tu rapproches pas mal plus de Steve Austin qu'on a vu dans ce show-là avec 94 que de Austin qu'on connaît aujourd'hui.
Ouais.
T'sais, en même temps, avec Brett, c'est sûr que je sais que je suis un parti pris. Mais avec Brett, c'est dur d'avoir un mauvais match quand t'es bon, surtout quand le gars l'autre bord il est bon aussi.
Écoute, faut que je te le donne, puis on va en reparler dans notre spécial sur Survivor Series 96, ça c'est sûr. Mais. Tu sais, moi, je vais m'en trouver des défauts là, à Brett. Mais il faut.
Ah, t'en trouver des défauts, toi aussi.
Ouais, ça, j'en ai pas mal plus que Brett. Mais, ouais, c'est ça. Brett, peu importe contre qui il luttait, il faut y donner. Si les matchs étaient tout le temps excellents. Puis, niveau lutte, là, c'est dur à battre.
Ouais. Pas pour rien que c'était l'excellence de l'exécution.
Ouais, mais tu sais, moi, le match contre Brett avec le sang, là,
ouais.
Moi, je pense que c'est ça qui a fait. Stone Cold, un peu.
Mais Austin 316, pis ça, moi, je te dis.
Ouais, ouais. Mais pour moi, c'est plus ce match-là qu'Austin 316.
Ouais, mais c'est l'affaire, c'est que si t'as pas Austin 316, peut-être que t'as pas ce match-là non plus.
C'est sûr.
C'est ça, le hic.
Ouais, ouais.
Bref, interview time avec Mean Gene O'Connor qui est avec Sting. Dans le fond, rien de spécial, là. Sting a juste dit qu'il était pour être ringside pour regarder le reste de la soirée, pis c'est tout.
OK, ouais, parfait.
Il a pris place à côté de Mohamed.
Assis-toi, Sting.
Oui. Après ça, on voit Bash at the Beach, Vader qui avait affronté The Guardian Angel, aussi Big Boss Man, évidemment.
Ouais.
Puis, c'est maintenant appelé ça s'appelait The Guardian Angel. Dans le fond, The Guardian Angel, c'est une organisation à but non lucratif.
Oh, tabarouette.
C'est le bout de l'émission, on ne parle pas vraiment de ça.
Ouais.
Sous la forme d'un milice non armée, reconstitué de bénévoles qui effectuent des patrouilles fondées par Curtis Sliwa. Le 13 février 1979 à New York. Ils sont là pour combattre la violence dans les métros de New York.
Oui.
L'organisation qui s'est étendue pour les plusieurs pays en les années 80.
Mm-hmm.
C'est ça.
OK.
Hein?
Ben, écoute, je suis impressionné. Est-ce que ça existe toujours aujourd'hui?
Ben oui.
Ben, c'est sûr.
Me semble.
Ben, tu dis oui, mais tu le sais pas.
Bon, ben, je sais pas. J'ai pas regardé jusque-là. Moi, j'ai juste lu le premier paragraphe de Wikipédia puis j'ai arrêté.
Fait que, ouais, c'est ça l'affaire. Là. Wikipédia, t'en prends puis t'en laisses. Fait que, dans le fond, là, moi, je veux que tu vérifies ta source. Et que tu mettes le lien. Tu mettes le lien si ça existe toujours.
OK, moi, checker ça. C'est bon.
Plus important que le chanteur du début.
Pas mal plus, moi.
C'est bon.
Bref, ça, le manager de Vader, M. Harley Race,
ouais.
A donné un genre de nightstick en métal. En métal.
Oh!
À Vader qui a réussi à frapper Guardian Angel, mais celui-ci il a enlevé avant qu'il puisse le frapper. Puis quand le reste a tourné de bord et quand il était occupé avec Harley Race, ben, il a vu que Bossman avait le. Je l'appelais Bossman, là, puis ça n'entend pas de la
Guardian Angel. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça va mélanger le monde. Là.
Ouais, c'est ça. Bossman, il s'est fait prendre par les culottes baissées, pas littéralement. Là.
Non, parce que.
Il a collé le DQ, malheureusement, pour M. Bossman.
Ouais.
M. Mann.
Oui.
Puis après ça, à Fall Brawl, j'ai un combat triangle qui, dans le fond, c'est l'origine du Triple Threat Match. Dans le fond, un match triangle, okay. C'est par élimination.
Ah, je pensais que c'était le premier qui allait chier le triangle puis jouer de la musique, moi.
Non.
OK.
T'as pas Vince Rousseau dans ce temps-là. Lui, il aurait peut-être ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, match épicant qui avait aussi impliqué Sting aussi dans ce match-là.
Oui.
Puis, Harley Race a fait perdre Big Boss Man. Après ça, à Saturday Night, Vader et Race avaient blessé Big Boss Man avec deux, trois Vader Bomb.
Ouais.
Il y a un autre Saturday Night, et ça revient souvent, je trouve.
Ah ben ouais.
C'est Boss Man qui a réussi à menotter Harley au poteau du ring en bas. Puis, mais avant qu'il puisse en profiter avec le bâton, le même bâton que Vader avait essayé de le frapper à Fall Brawl, pardon, ou à Bash at the Beach. Puis, les Doug Dillinger et la sécurité sont venus à l'empêcher de le faire. Puis, Harley Race s'en est bien sauvé.
T'as-tu dit Ty Dillinger, non?
Non, Doug Dillinger, c'est okay. Peut-être son père.
Peut-être. Je pense pas.
Doug ben. Dillinger, c'est le gars de sécurité, là, le moustache. Ah
ouais. Je t'ai niaisé.
Ouais. Puis un des lutteurs qui était disponible à Backstage Assault.
Mm-hmm.
Fallait que tu l'unlock. Hey, ben... j'avais tort de l'unlocker pour jouer avec. Well.
Gros silence dans le podcast parce que c'est ça.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que match numéro 6 de Guardian oh. Angel, a.k.a. Big Boss Man, a affronté Vader à combien de son manager, Harley Race.
Yes.
Puis Bossman a attaqué Harley Race avant le combat. Ça, c'est ça devient un thème dans le match. Là. Parce qu'il, disons qu'il l'a fait souvent dans le match aussi, attaquer le manager. Là.
Ouais.
Ben, manager, parce que tu sais, c'est pas un petit manager poche comme étant Harley Pullman. Là. C'était un gars qui avait lutté pendant bien des années, puis c'est un ancien champion du monde à plusieurs reprises. Là.
Ouais, moi, Harley Race, je l'ai pas mal juste vu, mettons, assis ringside de WWE pour se faire cracher dans la face par Randy Orton.
C'est ça, c'était pour dire ça. Et on veut parler de lutte fun. Fait que Randy Orton garde ça pour le prochain podcast.
C'est bon.
Puis c'est ça. Les deux temps ont changé l'avantage, mais c'est Bossman qui a frappé encore une fois Harley Race qui l'a slamé. Il a ouais. même pris Vader puis il l'a slamé sur Harley Race de côté, par exemple.
Ouais.
T'as pas dû faire du bien, ça, pour Harley Race. Ça.
J'aimais bien Vader.
Ouais, ben oui, ben oui. Vader est excellent.
Ouais, ouais. J'adore Vader.
Un des, à mon avis, c'est un des meilleurs big guys de l'histoire de la lutte. Là.
Ouais.
Je dirais qu'il est même facilement top 5, moi, je dirais.
Moi, je trouve que c'est vraiment très poche qu'il ne soit pas dans le Hall of Fame. C'est vraiment une honte qu'il ne soit pas là.
Il ne l'avait pas mis?
Vader, il n'est pas dans le Hall of Fame.
T'es sûr?
Non. Mais non.
Il me semble que c'est le dernier qu'on a vu dans la dernière fois qu'ils l'ont fait. Je pense qu'il était dedans.
Le Hall of Fame qu'on n'a pas vu diffuser, là?
Non, avant ça.
Je pense pas, parce que Vader est ben, là, il n'est pas décédé encore, mais il est malade. Il était très malade, là.
Okay.
Puis tu sais, tout le monde disait, il y avait comme un genre de mini-campagne qui disait, tu sais, il faut faire ça avant que Vader s'en aille. Tu sais, il est malade. Puis, ben, tu sais, WWE, souvent, ils attendent que les gens crèvent pour les mettre dans Hall of Fame. Là.
Ouais, parce que, tu sais, Ric Flair a besoin de trois bagues dans Hall of Fame, lui.
C'est ça, tu sais. Puis Scott Hall, puis Kevin Nash, puis c'est ça. Ouais.
Ouais.
X-Pac, lui, c'est pas grave parce que c'est X-Pac.
Ouais. Après ça, Boffin a réussi à faire plein de prises impressionnantes à Big Van Vader. En fond, il a fait,
ouais.
fait une souplexe, même un power slam quand l'autre a sauté en crossbody, il l'a pogné en power slam, c'était malade.
Ouais.
Après ça, un diving headbutt sur Vader pour un compte de deux.
Si vous entendez les pages, c'est TJ qui rebait son résumé de livre pour le monde.
Oui, un petit respect à tout le monde.
Ouais.
Parfait. Collision entre les deux. Quand Angel a oublié de ducker une clothesline, enfin un petit botch. Là.
Ouais.
Rien de trop grave, là, mais ça a paru. Mais il n'y a pas que ça. Au moins, il n'y a personne qui s'est blessé là-dessus gravement. Là.
C'est, non.
C'est un Vader Bomb après ça pour un gros compte de deux. Un autre, mais il est tombé sur les joues de Big Boss Man qui avait prévu le coup.
Ouais.
Après ça, Big Boss Man était avec un très beau Spinebuster pour un autre compte de deux. Puis après ça, il a été avec son Big Boss, son Boss Man Sidewalk Slam. Au fond, le gars court d'un corps, puis il fait un genre un mini rock bottom, si on veut.
Mm-hmm.
Avec beaucoup moins d'élévation, mettons.
Ouais.
Puis c'est ça. Puis après ça, il a pourchassé, évidemment, Harley Race en dos du ring. Il a même réussi à le prendre en souplex. Lui était à l'intérieur, puis Race à l'extérieur du ring. Il a même pogné en souplex pour le ramener dans le ring. Mm-hmm. Mais aussitôt qu'il est tombé, Vader il a fait un big splash pour le compte de 3. Ça, ce spot-là, je m'attendais crissement pas à ça, puis c'était non. Vraiment, vraiment nice.
Très, très belle fin. Puis en même temps, Vader, il est lourd. Fait que...
Ouais.
Ouais. Mais avec Bossman aussi, là, mais Vader est quand même plus imposant que Big Bossman.
Ouais. Puis j'en ai pas parlé au début du podcast, là, mais toi. Ton opinion sur le ring qu'il y avait, là, le gros ring bleu là, avec le gros signe WCW en jaune. Là.
J'aimais bien ce ring-là, moi.
Je trouvais ça écœurant.
Oui, je l'aime. J'ai toujours aimé, même tu le vois des fois dans des vieux footage, là. Mais ouais, je l'adore ce ring-là. Visuellement, c'est très old school, là, on s'entend, mais c'est. Ouais, j'aimais bien ça, moi.
Tu te souviens, maintenant, il y avait la petite tour alentour là, qui tournait, là.
Ouais.
Ça, quand il était à MGM Grand, c'était
Est-ce
malade.
que c'est hot? C'est ça, les nostalgiques, là. C'est malade. Alfredo va être content.
Oui. Un match qui m'a agréablement surpris, même si je savais que les deux, c'est quand même des bons lutteurs. Là.
Ouais.
Et, c'est pendant les deux des meilleurs big men de l'histoire, là,
Ouais.
Les deux ensemble.
Je te dirais que Big Boss Man est très sous-estimé.
Oui.
Ouais. Il
Puis,
était très sous-estimé parce qu'il est décédé aujourd'hui.
Ouais. Puis tout le monde a fait leur job à perfection. Puis je trouve que le finish était vraiment de toute beauté. Là. C'était vraiment, vraiment nice. Vraiment créatif.
Ouais.
Puis après ça. Oh, pardon. Je vais prendre une petite gorgée. Tu te croises en
Ouais,
attendant?
parce... Ben, moi, je pourrais te dire en attendant que j'ai un verre ici. Soit en audio, on ne le voit pas, mais il est vide. Fait que j'ai bien hâte qu'on arrive au quiz pour aller le remplir puis te battre au quiz après.
J'espère que ta boisson va être bonne parce que c'est l'affaire qui va être bonne avec ça.
Peut-être.
Fais ça, Vader, Curry, Sting, puis Mohamed Ali dans la première rangée. Puis après ça, on a un autre interview time. Cette fois-ci avec Millie Nocon et un boxeur qui s'appelle The Hitman Tommy Hearns. The Hitman, ben oui. C'est pas un vrai Hitman. Ça. Le vrai Hitman, c'est pas lui.
Ben non.
Bon, rien d'intéressant, dans le fond. Là, le gars, tu vois vraiment que c'est un boxeur qui a pas d'affaire à faire des promos. Là, il a un ton super monotone, puis il dit des clichés. Là,
il aurait dû se faire knocker par Mohamed Ali.
Oui. Peut-être.
Peut-être.
Après ça, on voit d'autres footage vidéo de. Dans le fond, c'est Dusty Rhodes qui demande aux Nasty Boys de joindre force avec lui et Dustin pour le War Games contre la stable de Colonel Parker.
Ouais.
Il avait accepté. Puis après le match, le clan du Colonel Parker ont attaqué les Nasty Boys dans le locker room 5 contre 1. Mm-hmm. Mais en fond, 5 contre 2. En fond, il y avait Mink qui était sur un des Nasty Boys, puis les quatre autres étaient sur l'autre Nasty Boys.
Tu sais, tu parles de Wargame, je lance l'idée comme ça, on devrait ça en faire un spécial Wargames, à un moment donné?
Ben, si NXT peut en faire un autre, on le fera.
L'histoire est quand même assez riche. Il est quand même assez riche en histoire, Wargame, là.
Ouais, ouais.
OK, parfait.
On pourrait peut-être faire celui Team WCW contre Team NWO en 96, quand le.
True.
On va voir pas toutes tes punches, mais quand Sting arrive, puis c'est pas le vrai Sting, puis le vrai Sting arrive après.
Ouais. Ils ont tellement abusé des faux Stings, hein. Oh, TJ, son écran vient de bugger. Ouais. Vous autres... Ah, OK, il est revenu.
Il est revenu. Ah, c'est moi qui était parti. J'étais là.
Il était parti?
Ah, ça se peut.
OK.
Désolé tout le monde. Ça arrive des fois.
Ouais.
Et on disait quoi, là?
Ben, je disais que la WCW a abusé du faux Sting.
Ben, ouais. Hein, on est juste regardé Halloween avec 2000, on le suit.
Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'était cool une fois ou deux, là, mais...
Ouais.
En passant, Halloween avec 2000, nos ratings étaient excellents.
Oui, on va le dire. Plus que 100 views.
Ouais, ouais, presque 200 même.
Parfait. Regarde, on ne le mettra peut-être pas sur Spotify, mais sur Spotify, on a deux interviews qu'on a faites avec Jean Brassard et Marc Blondin qu'on va sûrement mettre.
Petite plug.
Ouais.
Mais je te rassure, tous les podcasts qui sont en vidéo vont être en audio.
Oh, c'est bien parfait ça.
Yes, sir.
Vous allez pouvoir écouter ça en vous entraînant.
OK.
À chez vous, là.
Oui, parce que c'est pas en nous regardant que vous allez avoir le goût de vous entraîner, en tout cas pas pour moi.
Vous n'allez pas s'entraîner dans quoi, là?
Ouais,
dans la drogue, dans l'alcool, peut-être.
Hey, wow, là, je me drogue pas. Là.
Non, je parle des autres.
OK, parfait.
Bref, à WCW Saturday Night, les Nasty Boys sont venus au ring pour brawler avec Terry Funk et Bunkhouse Buck.
Ouais.
Puis les Nasty Boys ont challengé Ming à rentrer dans le ring, mais le colonel Parker, il a dit non, c'est correct, vas-y pas.
C'est vu que c'est son colonel.
Ouais, mais le pire, c'est que s'il arrêtait, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Je pense qu'il aurait pété deux tout seul.
Ouais, probablement. Si Bobby Lashley est capable de péter Retribution tout seul. OK.
C'est pas qui est plus crédible, Retribution ou l'équipe de Bunkhouse Buck et Terry Funk? Je pense que poser la question, c'est répondre. Il y a Terry Funk dedans, c'est sûr que c'est
plus crédible. C'est déjà plus crédible.
Mais pas mon Bunkhouse Buck. C'est bientôt le fun fact, là, ça s'en vient.
Yes, j'ai hâte.
Match numéro 7, on en parle encore justement.
Avant-dernier match.
Exactement, ça, oui. Hey, on n'a pas payé, hein? Ça va quand même vite, hein, notre review aujourd'hui.
Oui, j'aime ça. Ouais, on a un bon pace. Je pense qu'on a. On a trouvé un air d'aller, je pense, mon TJ.
Je pense que oui.
Yes, sir.
Merci, WCW.
Puis je vois aussi que tu as ton nouveau micro.
Oui, fait c'est que, vrai.
Ta qualité sonore est d'une perfection. C'est très beau, ça te va bien.
Gardez ouais, le micro. Ben, regardez, ouais. Pour les vidéos, regardez le micro.
Pour l'audio, écoutez-les.
C'est ça. Pour les vidéos audio, vous le savez déjà, vous l'entendez plus tantôt.
C'est ça, exact.
C'est le match numéro 7 pour le... Non, c'est pas...
Non, c'est pas pour ça. Paris,
non. Ah. Les Nasty Boys affrontent Bunkhouse Buck et Terry Funk accompagnés de Colonel Robert Parker et de Ming. Ils font gros brawl à 4 pour commencer, évidemment. Nobbs et Sag ont dominé vraiment leur adversaire pendant un petit bout.
Ouais.
Quand que Funk et lui, pour se mettre dedans, il s'est frappé la tête moins une dizaine de fois avec une chaise. Hein. Parce qu'il est middle Asian crazy, qu'il disait.
Parce que c'est ça, c'est Terry.
Oui. Puis après ça, Buck et Funk, hey, dis pas ça trop vite parce que tu as te mélangé.
Buck et Funk.
Malmène Sags à la sœur du ring, mais c'est rendu en dedans, puis il manque un double clothesline, puis Sags a réussi à leur tomber à la face, écraser la face sur le tapis. Et c'est là qu'il a fait la tag à Brian Hobbs, qui était une maison de feu. jusqu'à temps que Funk il reprenne un peu le dessus, puis qu'il le tienne pour que Ming le frappe.
Mm-hmm.
Mais heureusement pour les Nasty Boys et malheureusement pour Bunkhouse Buck et Terry Funk, Brian Hobbs s'est tassé. Et il a mangé le coup de poing de Ming d'en face, monsieur Funk.
Ouais.
Puis après ça, il y a Sag qui a fait un pile driver à Terry Funk sur une citrouille. Il a cassé la citrouille et ça a été assez pour le compte de 3 et la victoire.
C'est pas pire. On n'a pas trop vu de spot avec des citrouilles puis tous ces petits cossins d'Halloween-là que c'est souvent des spots faciles, là, comme tu vois souvent dans les shows de Noël avec le sapin et puis... ces trucs-là. Là.
Trick or Street Fight, mettons. Là.
Ouais, c'est ça, exact.
Puis ça, un petit brawl dans un match de style brawl avec des gars qui sont pas mal là pour ça. Là.
Ouais.
Tu sais, c'était pas... C'était correct, rien de mauvais. Là. C'est juste bien correct, un bon brawl.
Ouais.
Puis ça n'a pas été long, ça a duré quoi, 6-7 minutes max, fait que t'as pas le temps vraiment de trouver ça plate ou de t'ennuyer.
Non, c'est ça, exact.
T'es-tu prêt, c'est là, le fun fact?
Non, mais j'allais dire, en même temps, la carte est assez solide jusqu'à maintenant. Là, t'as eu le combat des frères Sullivan qu'on s'en crissait un peu. T'as ce match-là.
Ouais, c'est correct.
À part ça, là, pas grand-chose à dire du pay-per-view.
Pas vraiment, non. À date, c'est un excellent effort de WCW.
Ouais.
On peut pas dire ça du reste de leur...
mais là, tu m'as assez teasé, là.
Oui, le fun fact... Savais-tu que Bunkhouse Buck a fait deux apparitions à la WWE en 2010?
Non, je ne savais pas.
C'était quoi son rôle?
Non.
C'était le père de Jack Swagger.
Je me souviens même pas de ça.
Jack Swagger Senior. Pendant qu'il était World Heavyweight Champion, maintenant, il avait amené son père pour vanter ses mérites de sa vie.
Ouais.
Il y avait Kane qui est arrivé.
OK.
Swagger s'est poussé et laissé son père dans le ring avec Kane qui a mangé un tombstone.
Hey, je me souviens zéro de ça.
On va mettre ça dans les commentaires. Tu vas voir, tu vas être bien content que je l'ai mis.
Puis moi, j'avais pas trippé Jack Swagger en tant que champion. Puis je pense que Kane l'avait battu après ou c'est Swagger qui a battu Kane?
Vite de même, je pourrais pas te répondre. D'après moi, je suis pas sûr que Kane a gagné. Là.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ben je suis pas mort, je pourrais pas vraiment te le dire. Là. Mais bon, c'est ça, le fun fact, c'est ça qui t'a fait deux apparitions à la WWE. Mais l'autre apparition, il est arrivé à peu près le même style d'affaires. Là, sauf que cette fois-là, c'est MVP qui l'avait pété.
Ah. Ah ben.
Mais oui, regarde.
C'est vrai que c'est surprenant. Là. T'es... Je
suis là pour ça, moi.
Ben, ça me surprend.
On est ici pour apprendre.
Vous ne me voyez pas les yeux, mais regardez. Surpris.
Ah, il a des gros yeux comme des deux pièces. Fait que c'est ça. Après ça, on a Minjin O'Connor qui est dans le ring avec Mohamed Ali.
Ouais.
Accompagné du président de la WCW, M. Bill Shaw, et aussi le seigneur vice-président, Eric Bischoff. Dans le fond, ils ont donné un chèque à Mohamed pour sa fondation.
Ouais.
Ils ont donné une belle petite plaque aussi.
Ouais.
C'est ça.
Ben, c'est mieux que rien.
Ouais. Après ça, on a Tony Schiavone qui va de son choix pour le main event. Évidemment, lui, il prend pour Hulk Hogan, pendant que Bobby Heenan, lui, clame haut et fort que c'est Ric Flair qui va gagner.
Évidemment, tu sais. Le heel.
Eh oui, pas juste le heel, dans le sens qu'il a travaillé avec lui beaucoup dans le temps.
Ouais, aussi. Ouais,
WF, il était dans son clan, si on veut, avec M. Ouais. Bruce.
Mm-hmm.
Fait qu'on est rendu là. Le match numéro 8, ce match-là, il est long à dire. Donnez-moi deux secondes. Ric Flair avec Sensuous Sherry qui a affronté Hulk Hogan avec Mr. T comme habit spécial dans un combat de cage pour le championnat de WCW.
Tabarouette, c'est un. Ouais, c'est vrai que c'était long.
Pas une gorgée.
La cage était quelle couleur?
Ben, c'était une cage. Normal. Genre de fence. Ouais, une genre de fence. On veut un peu comme LNSL.
Ouais, exact.
Même affaire.
Ouais. Contrairement au match de cage de la WWE, que dans ce temps-là, la cage était bleue.
La grosse cage bleue.
Ah, l'excellente, la magnifique cage bleue de métal trempée.
Galvanisée, bleue.
Ouais, bleue.
J'ai envie de le faire, moi, avec Blondin.
Puis, tu sais, moi, avant que tu te lances dans la description du match, plus qu'on fait de review, on check beaucoup, beaucoup de luttes. On a toujours checké beaucoup, mais là, tu sais, avec le podcast, on check des affaires que, en tout cas, moi, je check plus d'affaires que j'aurais peut-être pas vues avant.
Un gros merci au Network. Une chance qu'on a ça.
Ouais. Puis, j'ai toujours été un gros fan d'Hogan. J'ai toujours défendu Hogan parce que c'est Hogan. Pour moi, c'est Hogan qui a fait la lutte. Là.
Ouais,
comme bien du monde. Là. C'est...
Lui puis Vince.
Ouais, qui ont rendu, ils ont mis la lutte sur la map. Mais je ne suis pas un fan d'Hogan à WCW.
Non, parce que ben, tu parles en général, même en Hollywood, ou tu parles
en
juste...
En général. Hollywood, c'était cool parce que ça a donné... Tu peux pas nier que ça... NWO, surtout au début, là.
Mm-hmm.
C'était vraiment quelque chose de cool de voir Hogan complètement ailleurs.
Mm-hmm.
Mais je suis vraiment, vraiment plus un fan de Hogan, WWF, jusqu'en 95 qui est parti, c'est ça?
93,
excuse-moi. Oui. C'est ça. Fait que, mettons, tous ces matchs à WWF, puis une coupe en Hollywood, là.
Ouais.
Mais sinon, le Hulkster WCW, je sais pas.
Ouais. Mais disons que le fait qu'il était avec l'NWO, ça l'a aidé pas mal. Ça a donné un gros souffle à sa carrière parce que là, le monde commençait. Mais même dans ce match-là qu'on va rejouer, il y avait beaucoup de huées de la foule là, quand il mentionnait Hogan. Des fois, là, c'était pas 100% Hogan. Flair n'avait pas d'acclamation. Là. C'était vraiment. C'était pas 50-50, là, on n'exagérera pas. Mais mettons un petit 80-20 peut-être.
Ouais.
Il y avait une qualité qui lui est Hogan dans ce temps-là aussi.
Tu sais, tout le monde dit que Hogan, c'est un peu... c'est dur de ne pas avoir la tête enflée quand c'est toi qui as mis à la lutte sur la map. Là.
Ouais.
Mais, tu sais, le petit gars à moi, que je ne ferais pas peine à personne, mais qui était comme « Ah, Hogan, comme tous les petits gars, genre tes vitamines, prends tes vitamines, blablabla. » Puis après ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires. Puis de plus en plus, on dirait que je commence à le détester.
Ouais. Je vais poser une question de même. Là.
Ouais.
Tu l'avais-tu, toi, quand tu étais plus jeune, le kit de training d'Hulk Hogan avec le dumbbell bleu?
Oui, je l'avais, mais oui.
Ouais, moi avec.
Je l'avais, puis je le faisais. Puis la fameuse voix en français, là aussi. Là,
c'était malade, oui. Ça, c'était malade. Ouais.
Mais c'est ça. T'sais, moi, c'est ça. C'est les matchs contre Ultimate Warrior, WWF. Mais ouais, c'est ça. WCW, not so much.
Ouais, mais en même temps, il avait fait sa notoriété à WBF, là, puis c'était pas mal, je dirais pas des vacances, là.
Ouais, mais pas loin.
Donc, ça s'approchait pas mal de ça à WCW, parce qu'il savait que, no matter what, il aurait son spot, puis qu'il pourrait faire ce qu'il voudrait. Fait que...
C'est ça, exact.
Un politicien hors pair, c'est Hulk Hogan.
Ouais.
Puis après ça, pour commencer le match, Ric Flair s'est attaqué à la jambe de TP d'Hulk Hogan.
Ouais.
Puis à son tour, il s'est assassiné avec Mr. T. Mm-hmm. Ça, c'est aussi un thème du match aussi. Les deux, ils commençaient à. Même Hogan, il poussait Mr. T, puis il a la même affaire aussi. Là.
Ben, tu sais, Mr. T et Hogan, il y a quand même un historique à WrestleMania 1, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Oui, il avait été en équipe ensemble. Oui,
ouais, exact.
Puis WrestleMania 2, il était encore là, Mr. T contre Piper dans un combat de boxe.
Ouais.
Ça, c'était dégueulasse, par exemple.
Ouais. Mais bon. Quand même, c'était quand même Piper. Que...
Un jour, on sait peut-être qu'on va peut-être faire une review de ça, WrestleMania 1. Ça serait peut-être le fun.
Mm-hmm.
On va voir.
Pourquoi pas?
Yes. Mais oui, on sait ce qu'on s'en va pour WrestleMania. On
pense que c'est.
Suite, mais on sait où qu'on s'en va.
Ouais.
Ça, les deux sont échangés. Ils ont changé l'avantage pendant une couple de minutes. Puis Hogan. Il continue à pousser Mr. T, comme j'ai dit tantôt. Mais c'est Ric Flair qui en a profité avec un double axe handle de la troisième corde pendant qu'il regardait Mr. T.
Mm-hmm.
Puis après ça, Hogan a pitché Flair dans la cage. Il l'a étranglé, il l'a mordu. Même chose pour Flair. Mais en fond, je trouve que ça va pour le match. Là. Ça montre que le match a de l'ampleur et qu'il y a un enjeu au match. Là. Pas juste un match genre pour se péter. C'est un match normal.
Mm-hmm.
Fait que, les gars vont faire ce qu'il y a à faire pour ça. Puis Hogan le sait que s'il fait pas ça, Ric Flair va le faire. T'sais.
C'est ça, exactement.
Ouais. Après ça, Flair continue son travail sur la jambe de Hogan. Puis il a arraché son tape. Pas fin.
Non, ben vraiment pas.
Mais pour ça, on a un figure four en plein milieu du ring. Mais évidemment, Hogan a réussi à renverser en se tournant de bord. Puis Hulk a essayé de rentrer dedans Ric Flair avec une clothesline, mais malheureusement, il a pogné Mr. T. Il a fait un fameux ref bump.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, après ça, Ric Flair s'est mis à frapper Mr. T, justement. Après qu'il n'a pas l'air de faire un compte quand il a fait un back suplex à Hogan, il s'est mis à frapper Mr. T avec des stumps. Puis après ça, en passant là, on a vu Sherry qui a monté sur la cage. Mon moment préféré du match.
Pourquoi?
Ben, Sherry, elle a monté sur le bord de la cage. Qu'est-ce qui est arrivé? Jimmy Hart est arrivé derrière elle, puis il a arraché sa jupe.
Oh, tabarouette. TJ.
Ben là,
dans ouais, t'étais jeune. Ouais, t'étais jeune.
94, là.
Un peu de respect, là.
J'avais 7 ans, là.
Un peu de respect.
Correct.
OK, parfait.
Mais bref, le meilleur bout du match. Non, c'est pas vrai.
Ben là, non, c'est pas vrai. Là.
C'est pas vrai. Ouais. Puis c'est ça, il a réussi à arracher sa jupe, montrer ses attributs dans sa lingerie. Ça, il a poussé Jimmy Hart sur le caméraman. Qu'est-ce qu'il y a, moi?
Arrête, caméraman.
Wow! Ça, il a poussé Jimmy Hart sur le caméraman. Qui filmait pas à bonne place.
Ouais.
Là, okay. c'est Sting qui est arrivé pour la faire tomber de la cage puis se signer avec. Jusqu'à temps que l'homme masqué sorte dans le dessous du ring.
Oh oh!
Il frappe non seulement Sting avec une barre de fer noire, mais aussi Jimmy Hart.
Ouais.
Il a pété les deux solidement.
Mais c'était qui?
Pas rendu là encore.
OK, on va le savoir là.
Ça s'en vient.
Yes, sir.
Pour ceux qui sont audio, je vais faire un clin d'œil.
Ouais, c'est ça.
Hogan tient Ric Flair en choke, mais Sherry saute de la top de la cage avec un double axe handle.
Ouais, mais Sherry, c'est pas elle qui a peur de se saler. Là.
Non, puis en plus, elle avait pas de bottes, c'était nu-pied en plus, imagine.
Ouais.
Mais évidemment, Hogan, lui, il vendra pas ça, certain. Hein?
Ben non, ben c'est normal aussi.
Ah, je comprends maintenant que c'est une femme. Elle faut quand même du top de la cage avec un double axe handle en air d'attente.
Ouais, mais Hogan, c'est 6 pieds 4, 300 livres. Là.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, il aurait pu au moins installer une seconde. T'sais.
What you gonna do?
Brother. Après ça, Hogan. Ric Flair a essayé de prendre l'avantage un petit peu, puis il a menotté Mr. T sur la corde.
Comme. Est-ce qu'il y avait. C'était ça, menotte à Big Boss Man ou non?
Je sais pas, j'ai pas demandé.
Ok, parfait.
Sûrement.
J'espère.
Puis après ça. Il a menotté, comme j'ai dit, il a menotté Mr. T. Après ça, il a profité, lui et Sherry, ils ont pris Hogan puis ils l'ont whippé dans la cage. Mais sur la cage, il y avait l'homme masqué qui avait le bâton de métal direct devant la cage. Comme ça, il a pogné la cage puis le métal. Donc,
mais là, okay.
Mais c'est Hogan, hein, il est capable d'en prendre.
Ouais.
Puis c'est ça. Après ça, Ric Flair était avec une suplex sur Hulk Hogan qui s'est relevé tout de suite. Puis il a pogné Sherry puis Ric Flair puis... une corde à linge chaque, puis un body slam, puis un autre body slam.
Ah ouais, donc.
Eh ouais. D'autres clothesline, puis tout. Après ça, Ric Flair, il réussit à faire un petit cheap shot. Mais après ça, Hulk Hogan, il Hulk up son fameux comeback, là, où il shake comme un bon. Oh, en pointant du doigt.
Ouais.
Puis après ça, il arrive, puis il fait, comme tu as dit, you!
You!
Soldier Boy!
Je pense pas qu'Hogan faisait ça. Il aurait été malade, remarque, là.
Et évidemment, on se le reste. Big boot, leg drop. 1, 2, 3!
Ouais.
Mais après ça, c'est ça. Le match, c'est ça.
Il était fait que là, ouais, ça a comme coupé.
Hein?
Ouais, non, ouais.
C'est moi qui ai coupé moi-même.
OK, mais coupe-toi pas.
Ben, je sais, je m'excuse. Des fois, okay. Ça m'arrive.
Ouais.
Quand je sais que c'est trop bon, des fois, je m'empêche de parler.
Oh!
Ouais, c'est ça. Puis évidemment, Hogan pose dans le ring comme il fait tout d'habitude, parce que Hogan must pose quand il gagne un gros combat.
Ben, même quand il gagne pas un gros combat. Là.
C'est vrai, quand il gagne pas un gros combat, il a pété le gars, sortir du ring, puis faire ses Hogan must pose. Là.
Fait que dans le fond, on tout le temps.
Ouais. Puis c'est ça. Après ça, on voit Pendant qu'il pose, on voit l'homme masqué qui est derrière Hogan, mais comme un épée, au lieu de le frapper, il attend qu'il se retourne de bord. Tu sais, t'as une barre de métal dans les mains.
Frappé, là. Ouais, c'est ça.
Il fait depuis le début du build, là. Il peut pas faire ça une dernière fois, non. Il attend qu'il se relève, mais Hogan, il est wise, fait qu'il a vu, il a vu le coup, le, venir le coup, pardon.
Ouais.
Puis il a réussi à bloquer le bâton de métal, là. Puis après ça, il était capable de le puncher, de faire un big boot au l'homme masqué. Et là, le grand reveal, ouais. Il a enlevé le masque de l'homme masqué. Et c'était Brother Blue Light, Brutus Beefcake qui était derrière le masque.
Le grand méchant chum d'Hulk
Hogan. Son grand chum. Et oh my God, hein, son plus grand chum qui tourne le dos de même. C'est yes. Vraiment un gars dégueulasse. Il a butchered le friendship qu'il avait avec Hulk Hogan, a dit Bobby Heenan.
Ben oui.
Pas pour rien, parce qu'un mois après, il l'appelait The Butcher, justement. Ouais. C'est un wise aussi.
Je pense qu'il le savait pas mal. Là,
ouais. Oui. Puis après ça, on voit Kevin Sullivan qui arrive aux abords du ring. Et les deux se mettent à encercler Hogan. Jusqu'à temps que Earthquake, qui s'appelait maintenant The Avalanche, est arrivé pour...
Tellement des noms dégueulasses.
Attaquer Hogan avec les deux autres 3-1. Ouais. En fond, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est que je savais qu'il arrivait dans le match, je savais qu'il faisait une apparition de WCW, mais je ne savais pas qu'il avait son gear d'Earthquake juste avec le nom qui était enlevé.
Ben oui, c'est vrai.
Je pensais qu'il était arrivé avec un suit comme genre WCW, mais non, il est arrivé avec son suit d'Earthquake. La seule affaire qu'il n'avait pas, c'est le mot Earthquake.
Son nom, ouais, c'est ça.
C'est fou, je me rappelais crissement pas de ça.
Mais après ça, il y avait des suits marqués Avalanche, non?
Ouais, il y avait
ouais. Le shirt aussi, là. Dégueulasse.
T'sais, on connaît je sais pas si vous connaissez, en tout cas, moi je connais l'histoire, je vais vous le dire.
Ouais.
Pas de John Tenta, enfin Earthquake. Ouais. Il était à Avalanche, après ça, il voulait qu'il change son nom pour The Shark. Fait qu'il a fait un tatouage d'un requin sur son bras. Puis deux semaines après, ils ont changé sa gimmick. Fait qu'il a fallu qu'il s'en fasse un tatou par-dessus pour le cacher. Because WCW.
Ouais. Ça, savez-vous c'est quoi la malade de l'histoire? Mettons que vous faites une blonde ou un chum, là.
Oui.
Jamais tatouer le nom. Jamais.
C'est vrai.
Même si c'est l'amour Rebecca. De votre vie. Ouais. Ah ouais?
Je sais pas, je dis ça de même. C'est le premier mot qui vient en tête.
OK, parfait.
Ça, Sting qui est venu sauver Hogan avec un punch à Kevin Sullivan puis un double crossbody sur Brutai et Earthquake en même temps.
Ouais.
Puis évidemment, Sting, après ça, il y a un trainer aussi qui était là pour aider Hogan à sortir du ring et aller backstage.
Mm-hmm.
Puis après ça, pardon. Bobby, Tony et Mingy nous donnent le mot de la fin. Puis il dit merci à Ric Flair pour sa belle carrière. Il éclate en larmes.
Yeah, right.
il éclate en larmes parce qu'il est vraiment triste parce que Ric Flair, c'est son gars.
Ben oui.
Mais pour te consoler, Bobby, je pense qu'il va revenir. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il va revenir.
Je pense, ouais, il y a des bonnes chances.
Fait que c'est ça. Pour Hogan puis Brulay, mais qui s'appelait après The Butcher, comme j'ai dit.
Ouais.
Leur histoire a continué. Ils ont même main eventé Starrcade. Je répète, ils ont main eventé Starrcade, le genre le WrestleMania de la WCW. Là.
Ouais.
Brutus de Forking Barber Beefcake a main eventé le pay-per-view le plus important de la WCW.
Hey, un peu plus, on avait un three-way Jim Duggan.
Ouais, c'est vraiment des best friends. J'espère qu'ils ont fait un hug après.
Puis Hogan, c'est Hogan, mais c'est pas le plus grand lutteur de tous les temps non plus. Là.
Il faut vraiment qu'il y ait un excellent lutteur à l'autre bord pour qu'il y ait un... Ben, pas nécessairement
excellent. Pas excellent, mais ouais, c'est ça.
C'est un gars qui est capable de faire la job. Là.
On parle niveau lutte, là. Ouais, vraiment niveau juste niveau. La lutte, là.
Ouais. Il affrontait beaucoup des big guys. Même Earthquake, justement. Earthquake, il est bien meilleur que Brutus Beefcake. Là.
Ouais, vraiment.
Même à sa grosseur, là. Il...
Ouais.
Bref, pour venir au match, c'est ça. J'ai adoré ce match-là. Il était vraiment excellent. Oh, c'est deux lutteurs les plus populaires ever, là, les plus importants de l'histoire de la lutte, là.
Ouais, ben un classique méchant contre gentil, là, super-héros ouais. Contre bad guy. Là.
Comme je disais tantôt, c'est un match qui avait un enjeu. Il y avait, c'est pour la ceinture, c'est un combat de cage, un combat de retraite.
Ouais, ouais.
Sais que la retraite n'a pas duré longtemps, c'est sûr. Mais
de toute façon, dans la lutte.
Ça. Fait que c'est le match, comme j'ai dit, un excellent match, two thumbs up.
OK. Fait que t'es-tu prête pour y aller avec ta note?
Ben, tu peux parler du match Hogan? Tu as aimé ça?
Non.
T'as pas aimé ça?
Non, ben oui, c'était correct.
Okay.
Ben, c'était correct. Je m'attendais-tu un... Tu sais, je l'avais jamais vu avant, ce match-là. Mm-hmm. Je m'attendais peut-être un petit peu plus.
Ah ouais?
Ouais.
Moi, je sais que c'est le contraire. Moi, je ne m'attendais pas à grand-chose, puis j'ai été surpris.
Ah, non, moi, je m'attendais à plus un peu, mais j'ai pas trouvé ça mauvais, là. Je dis juste que, ouais, c'est ça. Mais, mettons, juste le match, je donnerais peut-être un 7 sur 10.
Moi, j'en aurais un 8. Je trouve que c'était un très bon main event. Puis, tu sais, comme j'ai dit, il y avait un match qui avait de l'enjeu. C'était pas un match juste pour avoir un match. Là.
Ouais, mais. Ouais, c'est pas... Mon match préféré reste Arn Anderson contre. Dustin Rhodes. Ouais, c'est ça.
Moi aussi, c'est la même chose. J'ai le même affaire. Puis, le premier match de la soirée, ben, on a le même, c'est sûr. Là.
Ouais.
Puis, la bataille des frères Sullivan. Là.
Ouais. Quand que même le match. Le match de Terry Funk, Toba.
Ouais. Ben, Terry Funk est correct, là.
Mais moi, je me ferais peut-être pas d'amis, là, mais pas un gros fan de Terry Funk. Tu sais, je respecte ce qu'il a fait, mais tu sais, j'ai jamais trippé bien. Là.
Non, non, mais je te comprends. Moi aussi, c'est pas mal pareil, là. Tu sais, c'est sûr que tu peux pas le respecter, justement, là. C'est impossible.
Ouais, c'est ça, exact.
Tu sais, avec ses nombreuses retraites qui revient tout le temps, tu sais, une passion pour le sport, puis tu sais. Il est prêt à faire n'importe quoi pour faire une bonne performance.
Là. Ouais, il a même lutté après, même ses dernières retraites, il luttait dans Indy aussi, je pense.
Oui. Mais Terry Funk, c'est une légende de la lutte, c'est juste que c'est peut-être pas le meilleur lutteur. En tout cas, le Terry Funk qu'on connaît, nous autres, mais je sais que les années 70-80, au début, là, il était vraiment, vraiment bon. Là.
Ouais, c'est sûr. Lui et son frère. Il a connu plus son côté hardcore. Là.
Ouais, lui et son frère Dory Funk. Surtout Dory Funk était bien meilleur côté lutte. Là.
Ouais, Dory meilleur.
Fait que c'est ça. Match de soirée, on est d'accord que c'est Arn Anderson contre Dustin Rhodes. Puis le premier match, on est d'accord aussi que c'est les frères Sullivan.
Est-ce qu'on va être d'accord sur la note?
Maintenant, la note du show, tu veux-tu commencer?
Vas-y, je te laisse commencer.
Moi, je donne un excellent 8 sur 10. Je trouve que je recommande de regarder ce show-là. C'est sûr.
OK. Intéressant.
Moi,
je vais donner 7,5 sur 10.
OK. C'est correct.
Ben, pour vrai, je l'ai donné 8, mais...
J'ai donné 8, c'est ça?
Non. C'est que j'avais ma note avant que tu la dises aussi, là, mais dans le sens où que ça n'a pas rapport. Il n'y a pas une compétition. Mais tu sais, les deux matchs que j'ai pas aimés, deux matchs sur 8 que tu n'as pas aimé, c'est quand même bon.
Mm-hmm.
Puis je m'attendais peut-être un petit peu plus du main event.
Ouais, c'était ça ton 0.5 peut-être. Toi.
Mon 0.5, puis le premier match, le fait que ça finisse en, time draw, tu sais, on s'attendait à ça, mais j'aurais aimé peut-être un... Je sais pas, manquer un peu de synchronisme, mais en même temps, 194 aussi.
Ouais. En tout cas, ce show-là, comparé à la Winavoc 2000, c'est comme comparer, mettons, WrestleMania 2 à WrestleMania
10. Ouais, c'est ça, ouais. Puis je pense que j'ai donné 6, fait que... Je pourrais presque donner 8. Là. Je vais donner 7,5, mais je pourrais me rapprocher. Mettons, on m'a dit 7,9.
C'est bon, parfait. On va dire 8,1 d'abord.
Yes! Rating!
Ouais, c'est ça qui conclut notre review d'Halloween avec 94. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça.
Mais c'est pas fini.
C'est pas fini parce que là, on est rendu au dessert.
Au dessert, le quiz, mais aussi à la fin du show, on va parler de nos prochains rendez-vous. On va parler de du côté audio du podcast. Puis on va vous renseigner ce qui s'en vient, parce qu'on a des specials. Je pense qu'on va parler plus des specials. Vu que c'est un special, on va parler des specials. Puis,
parce qu'on fait beaucoup de weekly aussi, là, la lutte actuelle, mais on fait très beaucoup de spéciales aussi. C'est pas mal. Il y a un bon équilibre entre les deux, je dirais.
C'est ça. Fait que je vais vous donner des dates de sortie parce qu'on est pas mal on time ces derniers temps.
Oui. Fait que là, on appelle notre chum Dave. Là.
On appelle Dave. Il s'en vient là.
Tantôt. Mais bonjour Dave!
Salut!
Comment ça va?
Ça va.
Parfait, hey, on est content de te voir.
Oui. Yes. On a parlé tôt dans le podcast. Juste être sûr, Dave, ton nom de famille, c'est pas Sullivan.
Non.
Pourquoi? Okay. Parce qu'on a parlé de Dave Sullivan, fait que moi j'ai demandé si c'était Dave. Il a dit non, c'est pas le même.
T'es écrit en bas, tu
sais. Dave Good, ben oui. Mais non, ben ton nom de scène, tu aurais pu être Sullivan, là, Chris, là, on s'entend.
Ouais, non.
Mais t'aurais pas choisi ça, je pense. Hein.
Non.
Okay, pour parfait. Ceux qui nous écoutent, son nom est en bas, vous ne le voyez pas, vous autres, hein, mais.
Oh, c'est vrai, parce que
Spotify.
À partir de la semaine prochaine, on va être sur Spotify, tous les épisodes en audio. Fait que vous pouvez vous endormir avec nous autres dans vos oreilles.
Vous allez pouvoir les revoir.
Ouais.
Les réentendre.
Les réentendre, exact. Ouais. Tout ça. Puis notre qualité audio va être meilleure à partir de cette semaine.
Oui, exactement.
Puis joyeux Halloween, Dave, en passant.
Oui.
Yeah.
Trick or treat?
Ouais.
OK.
All right.
Treat.
Oui, avec le quiz, oui. Mais cette semaine, je me sens confiant. C'est la pleine lune.
OK.
OK? L'Halloween, la pleine lune, ça arrive pas tout le temps. Fait que je vais commencer.
OK.
Puis je te dis, tu vas me shipper ça à soir. OK.
Quoi, ça, tu parles? Mon championnat intercontinent quiz?
Exact.
Oh non.
Yes, sir.
On va rester ici aux frettes.
Donc, vous avez reviewé Halloween Havoc aujourd'hui?
Oui, 94. Oui.
Bon, fait que ça va être un spécial Halloween Havoc pour le quiz.
Yeah.
Fait que...
On aime ça.
C'est pour Mark?
Oui.
C'est qui a été quel était le premier main event de Halloween Havoc en 89? Oui, c'est ça.
On a parlé de l'année, mais on n'a pas parlé du main event.
Non, j'arrête de checker, Colin.
Tu le sais-tu par hasard, TJ, avant que je réponde? T'as-tu un choix de réponse?
Non.
OK, parfait.
Ouais, mais là, c'est, je ne pense pas l'avoir, je pense pas.
Le main event, c'était... OK.
Je peux vous donner un indice, c'est un tag team.
OK.
Ah! Bien fait, parce que j'allais pas, bon, on n'allait pas dans cette direction-là. Par...
J'ai peut-être une idée, peut-être. Oh,
89,
j'ai
peut-être idée. Hein?
J'ai okay. peut-être une idée.
Je vais dire... si je... tabarnak, ouais, ça sera pas facile, ça. OK. Je vais dire n'importe quoi, je ne sais pas, c'est sûr. Je vais dire Ric Flair puis Arn Anderson contre Sting puis Barry Windham.
Il y a deux personnes qui n'étaient pas bien.
Oh, Chris.
C'est quoi t'as dit, toi?
J'ai dit Flair puis Arn Anderson contre Barry Windham puis Sting.
OK. Moi, je vais dire les Road Warriors contre Ric Flair et Arn Anderson.
Non, mauvaise réponse. C'était Ric Flair et Sting ensemble
oh.
contre le Great Muta et Terry Funk.
Oh,
oh Terry Funk!
Ouais.
Ouais. Bah, ben, regarde, WCW, j'ai dit tantôt. Là, c'est
ouais. ah, ben, ça, encore là, je pense que c'était encore de la NWA dans ce temps-là.
Ouais. Ça, je sais, par exemple. Ça, je sais.
Mm-hmm. Bon, mais justement, parlant de la NWA,
oh.
qui était champion World Heavyweight NWA à Halloween Havoc 90? En fait, qui est sorti de Halloween Havoc 90 champion?
C'est à moi, là. Hein?
Ouais.
C'est le néant en ce moment.
J'aime ça.
T'as-tu un indice, quelque chose?
Ben,
c'est pas obligé, t'es pas obligé, là.
C'est une grosse superstar, là. Si je te dis un indice, c'est sûr.
Ok, c'est bon, c'est bon. Ça serait trop évident que ce soit lui, mais on va le dire pareil. Ric Flair.
Non, d'autres répliques.
Je vais dire Sting.
Bonne réponse.
Yes! Bon, je vais t'avoir.
Avoir une question.
Ouais,
c'est ça,
ouais.
WCW, t'as peut-être une chance. La seule chance
que
t'as.
Maintenant que je t'en
fous. C'est ta marque, là. Ouais.
Toi. Yes. OK. Où s'est déroulé le premier Halloween Havoc?
Fuck.
89.
T'as-tu des choix de réponse, non?
Ben, je peux t'en donner si tu veux.
Ah! Oh. Tu le sais, toi, mon esti, hein?
J'ai un petit guess.
OK, vas-y. Donne-moi un choix de réponse.
New York. Las Vegas. Philadelphie. Ou... Attends un peu, c'est quoi l'autre? Détroit.
Oh, t'es pas dans mes choix.
Je vais dire Las Vegas.
D'autres répliques.
C'est New York, les autres? New York?
Philadelphie.
Ouais.
Ou Détroit?
Philadelphie?
Bonne réponse.
Ah!
Ah, oh, j'ai ça de... C'était... j'ai manqué ça.
C'était so au far, Civic Center. Okay.
Pardon?
Le Civic Center à Philadelphie.
Je voulais pas prendre une ville que genre sont tout le temps là. Je voulais... me suis dit peut-être que non, mais
ouais. Las Vegas était là souvent quand même.
Ouais, mais Philly, c'est quand même la ville de... une ville de lutte.
Détroit, c'était pas écrit par tout, j'ai juste donné ça de même.
Ouais, c'est... ben Détroit, c'était 94 de toute façon.
Je sais pas.
Ouais.
Oui, on va de le faire.
Ouais, c'est ça, exact.
Ah, ah ouais, c'est à Détroit?
Ouais.
Je savais même pas.
À l'Arena Joe Louis, le Midwest n'est pas disponible.
Okay. Ouais. C'était à qui, là?
C'était à TJ.
Oui.
Ouais.
À Hollywood. Hollywood. Hollywood Havoc 91. qui a affronté Dustin Rhodes?
Barry Windham?
Non, une autre réplique.
Est-ce que c'est WCW, c'est dur des fois. Hein?
Surtout avant 93-94.
Ouais. Vader?
Non.
Je peux-tu donner un autre choix peut-être? Ça ne comptera pas, mais je peux le dire.
Ouais.
Pas Larry Zbysko.
Non, c'est okay. Steve Austin.
Oh. Ah, ben oui, ben oui.
Stunning, Steve Austin.
Ben oui, ben oui, ben oui.
Hein. Non, mais.
Là, c'est à.
C'est à moi.
Mark?
Question 5, je pense. Hein?
Oui.
Tinko.
Halloween avec 92. Quelle était la stipulation du combo entre Sting et Jake Roberts?
Ah, c'est une... Non, c'est pas le perdant qui se perd.
Oh, c'est avec ses Kama et Shawn Michaels, ça.
Hey, je l'ai écouté ce match-là en plus. Je me souviens d'avoir vu ce match-là. Tu sais, je parlais des matchs de Sting tantôt là, dans le podcast. Toi, tu le sais, à mon estime?
Ouais. Il faut dire le nom exact.
Ouais.
Ah, oh, c'est sûr que je ne l'ai pas.
Ouais.
Un snake on a pole.
Ça aurait été malade, mais non.
Non.
Wow. Ça reste, c'est mon droit de réplique.
Ouais, 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 c'est à toi.
C'est un coal miner's glove match.
Oui, bonne réponse.
Ce qui est...
Sais-tu c'était à quoi ça consistait, TJ, ce match-là? Ou...
Ben, c'est prendre un gant de Cole et le premier qui le frappe avec, me semble.
Je sais pas du tout. J'essayais de trouver des infos. Puis...
C'est quoi? C'est un gant de maille? Ou...
Ben, c'est un gant genre TP gant... avec du métal dedans. Je sais pas trop. Là.
Un genre de gant de boucher? Là?
Genre, ouais.
OK. Ouais.
Bref, 2-1.
Ouais, j'aurais jamais trouvé. On va continuer à manger mon yogourt.
C'est ça, fais donc ça.
Là, c'est à qui? À TJ?
Ouais.
À Hollywood. Ouais, je mets de la misère à dire misère.
Hollywood. Hollywood avec.
Hollywood avec 98.
Oh.
Contre qui s'est battu Hulk Hogan?
Ultimate Warrior.
Ouais, ça, c'est facile.
Yes! À moins en plus. Est-ce qu'il est pas chanceux, l'autre t'as moins?
3-1,
oui.
OK, c'est encore jouable.
The thrill is gone, mon Stan.
Ben là, celui-là aussi, il devrait être facile pour toi.
Ouais, oui. C'est là les pays pour moi.
En 95, à Halloween avec.
À Hollywood avec.
Là, je le dirai plus. Si
ouais. Alexis, font ça le prochain coup, on va te dire que ça s'en va tatouer.
En 95, qui a battu Hulk Hogan?
Ah, c'était à moi, là?
Non, c'était à moi.
OK.
Ah, c'est mauvais, man. Tabarnak. Attends une minute, là. Pour la ceinture, hein? Tu as des choix de réponse par hasard?
Ben, je pensais pas que tu en aurais eu besoin.
Ouais.
Ben... Ils sont pas 75 à avoir battu Hulk Hogan.
C'est vrai.
Sting?
Non. On
va prendre un guess, là. Vader?
Non.
OK. Pas Ric Flair?
Non, c'était le Big Show.
Ah, oh, le Giant.
Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Le Giant. C'était pas si évident que ça, me semble, ouais.
À soi qui dit la réponse oui. Là.
C'est avec le Dungeon of Doom puis tout, les,
ouais.
Les,
ah,
les Bigfoot
ouais.
Puis tout. Là,
avec la balance.
Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai.
Avec le Yeti.
De Yeti!
L'arrivée du Yeti. Comment?
Tu te rappelles-tu le match qu'Hogan avait contre le Giant? Ben, il y avait deux matchs contre le Giant dans ce soirée-là. Tu sais quoi le premier?
Non.
L'affaire des Monster Truck.
Ah, ben c'est ça que je te disais, ouais. Les Monster Truck.
Il y a un match en main event après. Quand Big Giant s'est fait pitcher à du Cobo Hall, qui est genre, je sais pas combien de pieds, il est revenu la soirée même, puis il était correct, top shape.
Ouais, puis il l'a battu.
Ouais.
Il l'a battu, il a gagné la ceinture par disqualification, ce qui était assez bizarre.
Oui, non, je sais pourquoi je te dis.
Vas-y donc.
Il avait gagné parce que Jimmy Hart, il était avec Hulk Hogan, mais il était il travaillait dans le dos d'Hulk Hogan, puis il était avec l'autre équipe, puis il a marqué ça dans le contrat.
Ah, OK.
C'est lui qui l'a screwé.
Ouais, il l'avait frappé avec son mégaphone.
Oui, oui, c'est ça.
Oui.
Question quoi, là, sais-tu?
8.
Ocho.
Fait que si t'as celle-là, tu gagnes.
Ouais.
En 2000, Goldberg a battu une équipe. Quelle équipe c'était?
Chronic.
Fuck you. Tabarnak! Fuck you, esti. En plus, on l'a fait le review. Fuck you! Hey, à ce temps, je le sais comment il sent Brett.
Je t'aurais battu pareil, arrête, là.
Mais,
Philadelphie. Bon quiz.
Ouais, si j'avais eu Philadelphie, tu serais mort.
Peut-être, mais on saura jamais parce que c'est pas arrivé.
Maintenant,
on va se pogner?
Non.
OK.
En 99.
Nouévé.
DDP s'est battu contre Ric Flair. C'était quoi le type de match? La stipulation, si tu veux.
C'est à toi, Marc, là. Hein?
Ah ouais.
OK. Non, je me pose la question.
WCW, c'est les pires restes de stipulation. Tu sais, WWF, au moins, ça se ressemble toujours. Là. WCW, c'est un gant de moille, calice. Moi, tu veux juste ça. OK. DDP contre. C'est qui Ric Flair, t'as dit, hein?
Ouais.
En quelle année?
99.
Oh shit, OK.
Je vais dire Two Out of Three Falls.
Non.
C'était pas un strap match?
Oui, bonne réponse.
Ah, oh, tu vois, celui-là, c'est pas comme les autres. Là.
Pourquoi tu sais ça?
Parce que, si je connais la lutte.
Mais oui, mais
Mais WCW, c'était, il y avait beaucoup de strap match, puis de bull rope match.
D'ailleurs, ouais, papaye!
OK. La dixième question.
Je n'ai eu une, Esti, puis t'as excité.
Eu la première, puis t'étais bon. Oh! La deuxième, pardon.
En 2000.
C'est pour moi, celle-là? Oui! Il y a 120, sinon, shoot.
Où a lieu le pay-per-view, dans le fond? Quelle ville?
Ben Las Vegas.
Oui. Ouais. Tu connais-tu la place en plus? Ou,
MGM Grand?
Bonne réponse.
Ouais. Well, and still the Intercontinental Quiz Champion, moi-même TJ Holiday. You suck, man.
Hey, TJ.
Oui?
Et quelqu'un arrête de toi.
Je ne m'entendrai pas ce fois-là, tu me
rappelles. OK. Je t'ai eu tout à l'heure, par exemple.
Un running gag, Dave, dans le quiz. Dans le show,
tabarnak!
Un peu de questions faciles, puis un peu de bonnes...
Ouais, t'as eu deux questions de Halloween Havoc 2000 qu'on a fait le review.
Oui, mais j'ai gagné quoi, 5-1? Fait que, tu sais, mais j'ai même pas ces deux, j'aurais gagné 3-1 pareil. Fait que, eh. C'est ça. Ouais, well, ça conclut le quiz. Merci, Dave.
Oh, yes.
Non, c'est pas fini.
Ah, okay.
Ben, le quiz, oui.
Je reverse la décision. Je veux un rematch tout de suite.
Je vais renverser 5-1. Là.
Ouais, je sais. Ouais.
Ben, c'est ça.
C'est hey, j'étais tellement content avant, puis là, je suis tellement.
Eh ouais, quand tu as un peu la bonne réponse à la première question, deuxième question, tu l'as eu, tu étais confiant en tabarnak. Quand je vois dans ta face, puis dans ta
perdu le quiz, fini mon dessert. Ouais, c'est triste en quiz, là. Ouais, j'ai plus rien. J'ai tout perdu.
Bon, ben, c'est ça. Merci encore, Dave, comme j'ai dit, pour le quiz.
Yes.
Yes.
Marc, on a des très, très bonnes nouvelles, nous autres.
Ah ouais?
Ben oui, les podcasts qui s'en viennent.
Ben oui, on a toujours des bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est confiné jusqu'au 23 novembre. On a tout de même dit jusqu'à Noël. Là.
En théorie, oui.
Ouais. En pratique, c'est une autre affaire.
Ouais.
Ouais, ben, on a déjà dit qu'on avait les spéciales, parce qu'on va parler juste des specials, dans le fond. Là.
Oui, oui.
Fait que Survivor Series qui s'en vient, on a 3, 91, 2001.
Et 97, le plus important. Le
plus important. Mais, show qu'on va taper la semaine prochaine, mais qui va être diffusé en vidéo et en audio. Donc, le 14... Tu vois, ouais, tu peux le montrer. Le 14, donc, le 14 novembre, qui va être diffusé en audio et en vidéo, un spécial sur Undertaker, donc sur la carrière. Ça va faire 30 ans de carrière pour Undertaker, qui est aussi le thème de Survivor Series de cette année, qui est aussi le pay-per-view que l'Undertaker a débuté sa carrière.
Oui.
En 90.
90.
Qui le manageait dans ce temps-là?
Brother Love.
Oui, bonne réponse.
I love you.
Avec ça devrait être un long special. On va être quatre. Alfredo va joindre à nous parce que Alfredo, oui. C'est un vieux monsieur puis il aime ça parler des vieilles affaires.
D'Alex,
ben Alex, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Si Alex veut venir, il viendra.
Parfait.
Fait qu'on le mettra dans. Là. Ouais. Moi aussi.
On a bien hâte de parler de Taker, là.
Ouais.
Mettons, on a du vécu à dire, mettons, là.
Oui. Ouais, puis tu sais, on le fera pas. Je pense qu'on le fera pas en forme de résumé. Là. Je pense qu'on peut, on peut se promener un peu. On peut le faire en forme de résumé, mais on va se promener ça dans l'histoire. Ouais, c'est ça.
Ouais, on va aller des affaires plus importantes. Là. Je dirais pas tous les matchs qu'il y a eu non plus. Là.
Non, non, non. Mais tu sais, on va. Le podcast, je pense qu'il va être un bon 2 heures, là, honnêtement, parce que il vaut Taker, ça vaut ça. Là.
Ouais.
Puis on a chacun nos mémoires sur lui aussi, là, nos souvenirs, ça c'est clair.
Mm. Ouais.
Fait que ça va être ça. Puis ce qui conclut, nous, spécial Halloween, parce que Halloween, ça finit aujourd'hui.
Oui.
C'est vrai.
Que, il n'y aura pas d'autre avant l'année prochaine. Non, non. C'est pas bon pour la santé.
Oui. Fait que comme on l'a dit, ces spéciales-là s'en viennent, en plus de nos weekly avec la lutte du moment. On a Full Gear qui s'en vient bientôt. Mm-hmm. Puis j'ai un événement que j'ai très, très hâte.
Ben oui.
Évidemment. Toi avec, arrête. Là.
Pas autant que toi, là.
Non, pas autant que moi, ça, c'est sûr.
Non.
Mais bref, c'est ça. Full Gear s'en va bientôt. Les Special Server Series. Taker, 30 ans de carrière.
Oui.
30 ans de cours.
Ouais, ouais. Puis c'est pas mal ça. C'est quand même 4 specials qui s'en viennent dans le mois de novembre. Là. C'est énorme.
Ouais.
Fait que, puis après ça, ben.
Dans les fêtes après?
Temps des fêtes. Au moins une semaine qu'on ne sera pas là. Au moins une semaine qu'il n'y aura pas de podcast pendant le temps des fêtes. Ça ne veut pas dire qu'on n'en tapera pas.
Ouais, c'est ça. Plein d'œil pour quelque chose sur l'audio.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça.
Là, ce qui conclut notre édition du Under Chasse de Metal d'aujourd'hui, spécial Halloween Havoc 94.
Oui.
Encore une fois, merci Dave.
Yes.
Oui, merci.
Merci Marc.
Merci TJ.
Ça fait plaisir. Et en mon nom, en nom de Marc et de Dave, pas Sullivan, Dave.
OK.
On vous souhaite une bonne fin de soirée. Venez pas m'écœurer sur Facebook. Salut.
Salut.